Donc, bienvenue à la deuxième conférence à Québec du cycle de conférences de Salon Double. On a visiblement perdu certains fans au profit de la manifestation contre la hausse des frais de scolarité, mais je remercie ceux et celles qui sont présents. Je savais que l'alcool en convaincrait au moins quelques-uns, donc... qu'on me permette d'abord d'adresser quelques remerciements à ceux et celles qui ont permis la tenue de cet événement. Donc, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, les éditions Nota Bene, la librairie Pantoute et le Studio P. Maintenant, quelques mots sur le projet. Salon Double est une revue en ligne qui se consacre à la littérature contemporaine. Elle a été créée en 2008 à l'initiative du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal et de la Chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine de l'Université Laval. Le comité de rédaction se compose d'Amélie Paquette, directrice, de Simon Brousseau, au son et directeur adjoint, dans l'ordre ou dans le désordre, de Pierre-Luc Landry, Marie-Hélène Voyer, Gabrielle Tremblay-Godette et de moi-même, Viviane Asselin. Les lectures que Salon Double diffuse sur le web se situent entre la critique littéraire et l'article scientifique. C'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit la série de conférences mises sur pied à l'automne 2010. L'idée est non seulement de faire connaître la revue, à laquelle vous êtes invités d'ailleurs à collaborer, mais également de créer un espace stimulant et accessible pour échanger sur la littérature contemporaine. Donc, c'est le défi lancé aujourd'hui à Benoît Doyon-Gosselin, professeur au département des littératures de l'Université Laval. Sa conférence s'intitule « Les littératures en contiguïté » et sera suivie d'une période de discussion. Donc, je cède la parole à Benoît en le remerciant chaleureusement de sa présence.
Merci beaucoup. Il y a plus de trafic dans la rue qu'au Studio P, mais c'est correct. je voulais pas vraiment amener de texte, mais finalement, j'ai dit, si j'amène pas de texte, je vais encore une fois divaguer dans toutes sortes de directions. Donc, j'ai amené un texte que je vais lire parfois, peut-être trop souvent, mais enfin, on verra. Et je vais commencer par un pastiche qui n'est pas drôle, mais un pastiche, peut-être que certains le reconnaîtront, pour ceux qui auront lu l'essai. Je réfléchis à cette conférence face au fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent, calme, majestueux, prévisible. Juste avant les ponts, à Cap-Rouge. Voilà un paysage que je pourrais passer mes journées entières à recenser. Sur la plage Jacques-Cartier, des enfants lancent des cailloux comme des bouteilles à la mer. Ces enfants sont une des conséquences de cette Franco-Amérique dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Leurs parents, une Acadienne et un Québécois, se sont rencontrés à Winnipeg. Eux sont nés à Moncton et habitent maintenant Québec. Je réfléchis à cette conscience diasporale qui m'habite. Celle que François Paré aborde avec sa plume unique dans le fantasme d'Escanaba. Je suis de cette génération de chercheurs qui peut se permettre d'étudier les littératures de l'exiguïté en toute légitimité. Les chercheurs de moins de 35 ans qui s'intéressent aux littératures francophones en milieu minoritaire sont arrivés aux études littéraires avec les essais de Paré comme prolégomène. Des littératures de l'exiguïté en 92 au fantasme d'Escanaba en 2007, la pensée de Paré est à ce point omniprésente que dans les colloques liés à la franco-américanité, aux littératures en milieu minoritaire, rares sont les chercheurs qui ne l'interpellent pas au passage. Presque 20 ans se sont écoulés depuis l'apparition des littératures de l'exiguïté, et il est fascinant de constater qu'au même moment où le livre de Paré était publié, René Dionne, professeur à l'Université d'Ottawa et un des premiers chercheurs sur la littérature franco-ontarienne, faisait paraître un ouvrage intitulé La littérature régionale aux confins de l'histoire et de la géographie. En comparant les fondements et les objectifs des deux ouvrages, on constate à quel point la littérature de l'exiguïté a bouleversé les études littéraires au Québec et surtout au Canada français, pour prendre la vieille appellation. Qu'est-ce que des littératures de l'exiguïté? En ce qui concerne le Canada seulement, parce que Paris a une vaste culture et il va aborder un nombre incroyable de littérature dont on ne connaît même pas l'existence, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc, en ce qui concerne seulement le Canada, Paris mentionne qu'il existe, et je le cite, depuis une trentaine d'années, donc il disait 192, depuis une trentaine d'années seulement, des littératures minoritaires embryonnaires de langue française, très conscientes de leur origine et de leur originalité, très vivantes, très vitales, malgré l'enlisement inéluctable des communautés culturelles et ethniques dont elles émanent. Il ajoute, et je le cite encore, que les petites littératures vacillent donc entre une gloire un peu surfaite et le désespoir de n'arriver qu'à engendrer de l'indifférence. Paris va ensuite poursuivre en nommant deux conditions de l'exiguïté culturelle, et ces deux conditions pour lui sont l'amorphe et l'atopique. L'amorphe, c'est évidemment l'absence de forme. Absence de forme dans l'histoire, absence de forme générique aussi. Difficulté de se stabiliser, par exemple, dans le roman. Il existe un déficit romanesque dans les cultures en milieu minoritaire. La poésie, évidemment, prend le haut du pavé. Okay? Le grand genre des littératures en émergence, c'est tout le temps la poésie. Okay? Au Québec, c'était la même chose au début de la littérature au 19e siècle, avec Crémazie, etc. Et le théâtre a certainement une place importante, mais le roman est très peu pratiqué. Si je demandais à des étudiants qui connaissent un peu le domaine de me nommer une dizaine de romanciers qui ont publié plus que trois romans, il y aurait de la difficulté. Parce que souvent, on a des romanciers de passage qui ont publié un roman et qui vont retourner à leur genre de prédilection ou simplement se taire dans la nuit. Donc, l'absence de forme et l'absence aussi d'une histoire, si on veut, pendant, en tout cas, 1992. L'atopique, c'est évidemment l'absence d'espace. Et pour Paris, c'est évident que ces littératures d'exiguïté-là n'ont pas de lieu propre où parler, n'ont pas d'espace. Et cet espace-là est autant littéraire que géographique. Par exemple, en Acadie, l'Acadie existe, mais l'Acadie, c'est une région floue, peu délimitée. En fait, aucune frontière, c'est pas un État politique, l'Acadie. L'Acadie, c'est en Nouveau-Brunswick, mais c'est aussi en Nouvelle-Écosse, mais il n'y a pas une carte de l'Acadie comme telle. Il y a des cartes de population acadienne où sont situées, mais l'Acadie n'est pas un État comme le Québec est un État provincial dans une confédération. Okay? Donc, en ce sens-là, Paris dit que les écrivains qui publient dans ces régions-là ou dans ces milieux-là vont tout le temps essayer de chercher à glorifier l'espace, à surdéterminer l'espace et à faire des œuvres comme Patrice Desbiens, L'espace qui reste, ou bien, Pierre Albert, le dernier des Franco-Ontariens, et son premier recueil de poésie s'appelait L'espace éclaté. On retrouve la même chose chez France Daigle, chez Gabriel Leroy, chez Herménégil Chiasson, évidemment. Donc, l'amorphe et l'atopique. Évidemment, le terme de littérature d'exiguïté a énormément choqué les communautés acadiennes ou franco-ontariennes ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne comprennent pas que Paris parle surtout de l'exiguïté institutionnelle. C'est pas parce qu'une littérature est petite qu'elle n'est pas intéressante ou qu'elle est moins bonne qu'une autre. La petitesse d'une littérature ne fait pas le fait qu'elle est petite au plan des qualités littéraires ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des bons auteurs comme des mauvais auteurs, mais ça, on en trouve partout, au Québec, en France, à Trois-Rivières, en Acadie, ça change absolument rien. Donc, Paris parle d'exiguïté surtout culturelle et institutionnelle. Les institutions fragiles, les maisons d'édition, faible autonomie, les prix littéraires, la critique littéraire, il n'y en a presque pas dans ces différents milieux-là. Donc, les gens du milieu, j'étais à une table ronde l'année dernière et les éditeurs, par exemple, sont offusqués de ce terme-là. Ils voudraient qu'on s'en débarrasse, qu'il soit banni, si on veut. Comme à l'Assemblée nationale, on va bannir des mots et on souhaiterait que le terme soit banni. Et ils ne comprennent pas nécessairement que c'est juste une façon de définir certains faits, finalement, liés à ces littératures-là. Et à ce sujet-là, ils ont essayé de trouver d'autres termes. Par exemple, Raoul Boudreau, qui est prof bientôt à la retraite à l'Université de Moncton, parlait de littérature de la résilience. Lise Gauvin, mais pas nécessairement dans ce cadre-là, mais en partie aussi, des littératures qui travaillent beaucoup sur la langue, parlent de littérature de l'intranquillité au Québec, mais ailleurs aussi. Donc, on a essayé de trouver d'autres termes, mais franchement, depuis 20 ans, le terme colle encore, et je crois qu'il va continuer de rester là, même si Paris essaie, non pas de s'en détacher nécessairement, mais d'aller plus loin que ça. Mais le terme est omniprésent, je vous dis, si vous assistez un jour à n'importe quel des colloques dans lesquels je vais spécialiser, si quelqu'un ne cite pas Paris, c'est presque une exception. L'autre problème qu'on peut avoir avec la littérature d'exécuter, c'est une question d'adjectifs et de substantifs. Quand on donne un cours de littérature acadienne, par exemple, est-ce qu'on donne un cours de littérature qui ça donne à être acadienne, ou on donne un cours sur l'acadianité de la littérature? Okay? Donc, est-ce que je vais mettre 6 œuvres au programme qui parlent d'Acadie, qui sont écrites en chiac, etc., ou je pourrais mettre 2 ou 3 œuvres qui, justement, font fi complètement de l'Acadie, qui sont écrites dans une langue normative standard, comme en France ou comme ailleurs? Les gens, les étudiants qui viennent dans des cours veulent beaucoup plus avoir des œuvres qui vont, non pas nécessairement folkloriser l'Acadie, mais qui vont certainement montrer la différence, la différenciation, comme dirait Pascal Casanova, et non pas l'assimilation aux littératures hégémoniques que peuvent être la littérature française ou, à sa façon, la littérature québécoise. J'aimerais faire une dernière remarque sur la littérature des exécutés parce que je veux passer à autre chose, justement. Dans son essai, Paré va choisir la majorité de ses exemples littéraires à la poésie. Donc, il va aller se loger du côté de la poésie. Plusieurs poètes québécois, entre autres, ayant des affinités avec la marge, avec la peur du cataclysme, sont mis à profit. Pensons à Gaston Miron, Denise Desautel, Sylvain Garneau, José Yvon ou encore Paul Chamberlain. Ce qui semble assez curieux, par contre, c'est qu'à un Patrice Desbiens ou à un Hermann-Jégé Chiasson, Paré n'oppose jamais un Gérald Leblanc, qui écrivait justement son expérience de la liminarité d'une façon autre, d'une façon beaucoup plus jouissive, et non pas d'une façon de la peur lancinante de disparaître. En fait, pour être juste, si vous lisez les littératures d'exécutés de Paré, vous allez avoir une note de votre page, en fait, une remarque sur Gérald Leblanc. Et il va citer une fois dans l'essai. La citation importe peu, je ne me rappelle même pas, je ne l'ai pas noté parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la note de bas de page qui a été reprise à chaque fois, et c'est une erreur qui n'a jamais été corrigée. Donc la note de bas de page contient une coquille, ou plutôt, dans ce cas-là, un lapsus fondateur pour la pensée de François Paré. La note bibliographique indique un recueil de 1988 intitulé « L'extrême tourment », alors que le véritable titre du recueil de Leblanc est « L'extrême frontière ». Cette erreur anodine, reprise dans toutes les rééditions, constitue un magnifique glissement de sens, témoignant clairement de la posture de l'essayiste. Dans la littérature des exécutés, un certain pessimisme, peut-être un pessimisme certain, une angoisse profonde, une douleur à la limite du disciple, marque la vision de la Franco-Amérique de Paris. Et il serait très facile ici de faire une belle psychanalyse, une psychocritique de Paris, qui quand même a fait un doctorat magnifique en Renaissance à Buffalo State, ou je ne sais pas quelle université, là, à Buffalo, New York State University, et qui finalement n'a jamais trouvé vraiment un poste au Québec, et s'est retrouvé à Guelph, et donc s'est intéressé par la bande, et est devenu finalement un spécialiste dans les deux domaines, mais qu'on le reconnaît beaucoup plus aujourd'hui pour les littératures en milieu minoritaire. Donc, cette angoisse de Paré dans les littératures des exécutés par l'extrême tourment, un tourment qui est peut-être autant personnel que dans les œuvres littéraires, est prolongée dans le fantasme d'Escanaba, publié en 2007 aux éditions Nota Bene. Après avoir constaté, à la fin de ce livre-là, après avoir constaté que le terme « exécuté » ne suffit plus aujourd'hui pour parler des cultures minorisées, il affirme, et je le cite ici, que les petites cultures sont déterminées jusqu'à la disparition par une ouverture dramatique à l'épuisement des espaces migratoires. Bref, chez Paré, peu importe la vitalité ou la non-vitalité, il semble tout le temps regarder ses littératures dans un prisme de négativisme. Et d'ailleurs, souvent dans mes discussions avec lui en personne, il voit souvent l'avenir sombre, puis peut-être à tort, peut-être à raison, sauf pour l'Acadie. C'est-à-dire que pour lui, il croit que dans l'Ouest, qu'en Ontario, sauf peut-être à Ottawa, que ses voies disparaissent. Donc, autant les communautés que les littératures comme telles. Depuis 20 ans, donc, on parle de l'exiguïté, surtout institutionnelle, de ces littératures. Pourtant, le monde change, les communautés francophones évoluent et se diversifient. Un énorme apport, entre autres en Ontario, mais dans l'Ouest aussi, de nouveaux migrants francophones qui arrivent d'ailleurs et qui apportent une autre vision des choses. Et des nouveaux auteurs, d'ailleurs, surtout en Ontario, des auteurs qui font partie de ces auteurs migrants comme La Ferrière, etc. Mais on en trouve énormément en Ontario, beaucoup moins en Acadie, parce que la société est beaucoup plus homogène et disons que l'immigration pour se trouver un emploi, c'est pas nécessairement au Nouveau-Brunswick qu'on va aller, ça va être beaucoup plus vers l'Ontario, vers Toronto, entre autres. Donc, alors que le supposément grand démon de la mondialisation poursuit sa marche, les communautés francophones du Canada tissent des liens entre elles, ainsi qu'avec le Québec et parfois avec la Louisiane. Au Québec, par exemple, ou plutôt à Montréal, centre littéraire et culturel qui exerce une hégémonie plus subtile que Paris, on crée des liens avec les écrivains haïtiens à partir d'une maison d'édition comme Mémoire d'Encrier. Mémoire d'Encrier qui s'intéresse aussi aux littératures autochtones, donc à Joséphine Bacon, par exemple, aux écrivains inoux, etc. J'aimerais donc suggérer, et là c'est une suggestion, c'est une hypothèse, je ne sais même pas si on est capable de bien la définir, mais je le fais ici. J'aimerais suggérer qu'au-delà des littératures de l'exiguïté, il faudrait commencer à parler des littératures en contiguïté. Lorsque deux éléments sont contigus, on dit qu'ils se touchent. Deux pays ou deux provinces peuvent être contigus, comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il s'agit alors d'une question beaucoup plus géographique. On peut également toucher quelqu'un ou toucher quelque chose par notre sensibilité. Un livre nous touche plus particulièrement, par exemple. Des littératures en contiguïté suggèrent les synonymes de proximité, de voisinage, de culture en contact. La notion de contiguïté ne tente pas d'évacuer la notion d'exiguïté, mais elle permet de ne plus voir les cultures minoritaires à travers le prisme noir du pessimisme. La contiguïté permet d'effectuer des rapprochements autant au plan de la sociologie de la littérature que sur le plan des grands thèmes fondateurs présent en Acadie, en Ontario, en Louisiane, au Québec et possiblement chez d'autres littératures minoritaires. Parce que pour moi, la littérature québécoise, dans l'échiquier mondial, est une littérature tout aussi minoritaire, mais qui, évidemment, en Amérique, est extrêmement importante pour la francophonie. C'est le foyer, il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas ça. C'est le foyer le plus important et c'est par là que tout part, surtout par Montréal, évidemment, pour les institutions. Donc, je souhaite donc aborder les littératures dans cette conférence en contiguïté, en traitant surtout de l'aspect institutionnel et à la fin, en vous donnant peut-être quelques exemples thématiques, mais qui n'ont pas une analyse vraiment très poussée, mais pour vous montrer des rapprochements entre deux auteurs que tout éloigne dans certains cas. Donc, en 1978, je parle d'institution littéraire ici, dans l'institution de la littérature, Jacques Dubois tentait de mieux circonscrire la situation des littératures minoritaires. Dans la typologie qu'il proposait à l'époque, ces littératures comprenaient, et je cite ici la typologie de Dubois, les littératures proscrites, les littératures de masse, les littératures parallèles et sauvages, et enfin les littératures régionales. Au sujet de cette dernière catégorie, qui m'intéresse un peu plus, Dubois posait trois questions liées au centre parisien. Ces trois questions étaient les suivantes. Existe-t-il une production littéraire délimitable qui soit extérieure à Paris? On est en 78. Quel rapport cette production entretient-elle avec l'institution centrale? Troisième question, peut-on parler de littérature régionale ou nationale, française, indépendante? Ces questions s'avèrent également pertinentes lorsqu'on aborde les littératures francophones du Canada. D'ailleurs, au Québec et au Canada, les relations entre les littératures de la périphérie et du centre institutionnel ont été abondamment étudiées depuis l'apparition de l'ouvrage de Dubois. Pour mieux comprendre les relations entre les littératures francophones au Canada et leur contiguïté constituante, les trois questions de Dubois peuvent servir de point de départ en remplaçant évidemment Paris, la métropole littéraire par excellence, par Montréal et par extension la province de Québec, si on veut, pour la francophonie nord-américaine. Dans sa proposition d'un système littéraire francophone, Pierre Allen souligne à juste titre, et je cite Allen ici, que le Québec apparaît et de loin comme le champ local le plus développé à l'intérieur du système. Donc, le champ local, donc en dehors de Paris, pour lui, c'est le Québec qui est le plus développé, encore plus qu'en Belgique ou en Suisse romande, etc. Et il ajoute, je le cite ici, que Montréal agit comme centre en soi, vis-à-vis de zones francophones qui gravitent peu à peu davantage vis-à-vis de Montréal que de Paris. Donc, on pense évidemment ici à mes champs de prédilection, mes domaines géographiques et littéraires, l'Acadie, l'Ontario français, et dans une moindre mesure, l'Ouest canadien. Je dis dans une moindre mesure parce que l'éloignement géographique d'un centre fait en sorte qu'il y a un éloignement aussi au plan de la critique, au plan de la connaissance de ces littératures-là. Okay? On connaît beaucoup plus la littérature acadienne que la littérature de l'Ouest canadien. Pas juste parce que c'est le nombre qui fait la différence, c'est parce qu'on a un rapprochement qui est logique, de proximité, avec différents auteurs qui ont réussi à tisser des liens, comme Claude Beausoleil, par exemple, avec Gérald Leblanc, Yolande Villemaire, etc. Jean-Paul Dehaut aussi. En fait, Montréal agit comme centre d'un système littéraire qui englobe toute la littérature francophone du Canada et, je dirais, de l'Amérique du Nord. Parce que même s'il se produit peu de littérature en Louisiane, évidemment encore moins en Nouvelle-Angleterre, il y a tout le temps un attrait. Et quand, j'oublie son prénom, mais M. Béchard a publié son livre « Vandal Love », bien évidemment, ça a fait un tabac quand même à Montréal, au Québec. On en a beaucoup parlé et ça passait à travers le centre pour que ça soit connu. C'est un livre qui était publié en anglais au départ, donc un livre américain, mais qui traite de l'expérience de migration des francophones en Amérique. Donc, dans cet ordre d'idée, la première question de Dubois fait presque sourire aujourd'hui. En 2011, la question de l'existence d'une production littéraire extérieure au Québec ne se pose plus comme elle se déclinait il y a une vingtaine d'années. On doit plutôt tenter de répondre aux deux autres questions qui peuvent être résumées ainsi. Quel est le mode d'existence privilégié des littératures francophones du Canada? Je résume ces deux questions-là comme ça. Quel est le mode d'existence privilégié des littératures francophones du Canada? Donc, dans un premier temps, j'aimerais me pencher sur la dépendance évidente de ces littératures à l'égard de l'institution littéraire québécoise. Cette dépendance est évidemment liée à l'exiguïté institutionnelle. Elle ne fait aucun doute et il serait futile de s'en convaincre autrement, que par exemple la littérature acadienne est autonome et qu'elle est capable de fonctionner sans l'apport ou l'appui au plan de réseaux littéraires, de sociabilité littéraire, des écrivains et des chercheurs, par exemple, québécois. Dans un deuxième temps, il existe une certaine indépendance des littératures francophones du Canada à l'égard du Centre montréalais, surtout en ce qui concerne deux points précis, le lectorat et l'enseignement. Cette indépendance s'inscrit dans une logique de contiguïté, justement. Enfin, nous suggérons qu'il existe une forme d'interdépendance, et ça, c'est un point qui peut être assez litigieux, mais vous allez voir, une forme d'interdépendance entre les littératures francophones du Canada et l'institution littéraire québécoise. Donc, parlons de la dépendance des littératures francophones du Canada à l'égard de l'Institution littéraire québécoise. Dans la République mondiale des lettres, Pascal Casanova indique, et je la cite ici, que chaque territoire linguistique comprend un centre qui contrôle et polarise les productions littéraires dépendant de lui. Fin de la citation. Pour les écrivains francophones du Canada, ce constat signifie que ceux-ci n'ont d'autre choix que de prendre une position ou l'autre, c'est-à-dire de s'assimiler à ce centre ou de se différencier par rapport au centre. Ces stratégies, que l'on retrouve parfois et même souvent dans les œuvres littéraires, marquent une certaine dépendance de la périphérie envers le centre. Pour prendre un seul exemple relativement connu, les premiers romans de l'écrivaine acadienne France Daigle tentent avec succès de s'assimiler à la littérature postmoderne et parfois féministe des années 80 au Québec et en France, alors que l'œuvre récente de Daigle réussit avec encore plus de succès à se différencier de la littérature québécoise en utilisant entre autres le chiac dans les dialogues entre les personnages acadiens. De la même façon que Tremblay s'est différencié de ce qui se faisait au Québec à l'époque en utilisant du joual dans ses pièces de théâtre. Pourtant, chez Daigle, même avec une prise de position plus qu'ironique, la dépendance envers l'hégémonie littéraire québécoise affecte l'écrivaine, ici autofictive, dans le roman « Pas pire ». Je vous lis un extrait de « Pas pire ». Donc, l'écrivaine, le personnage est un écrivain qui s'appelle France Daigle dans « Pas pire ». Donc, c'est une écrivaine autofictive qui a le même nom que l'écrivaine réelle. Cet appel reçu du bureau du ministre, donc elle a reçu un appel du ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick. Ça n'existe même pas vraiment, mais en tout cas. Cet appel reçu du bureau du ministre prit donc des proportions inouïes et me poussa aux fabulations les plus extravagantes. Soudainement, tout devenait possible, même les occasions les plus inespérées. Peut-être qu'un auteur du Québec avait manifesté de l'intérêt pour mon travail, au point de vouloir venir travailler avec moi à Moncton, dans le cadre d'une entente culturelle conclue entre les deux provinces. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive souvent des cas comme ça, mais c'est l'inverse. C'est des écrivains acadiens qui vont dire « Ah, ben, je vais aller travailler avec telle personne, je vais essayer de la rencontrer, je vais aller à Montréal pour une résidence d'écrivain » ou bon, le contraire est peu probable, ça arrive, mais on voit la fabulation ici. Et en fait, je ne lis pas la suite du roman, mais je vous indique que ce n'est pas du tout ça, le ministère l'appelait pour autre chose. Avec son roman qui s'appelle « Pas pire », qu'on est en train de lire, elle vient de gagner le prix France Acadie et Bernard Pivot veut l'accueillir à son émission « Bouillon de culture » en France pour lui remettre le prix en personne et parler de son œuvre. Et donc, il y a tout un jeu incroyable d'autofiction ici, parce que ce qui est intéressant, c'est que Daigle a vraiment gagné le prix France Acadie avec ce roman-là, mais évidemment, il n'a jamais allé à Bouillon de culture pour recevoir son prix. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'elle va parler à Bernard Pivot de littérature. Finalement, Pivot va dire, vous lisez pas juste Antonin Maillet, finalement, en Acadie, il y a d'autres auteurs, etc. Donc, il y a tout un jeu assez intéressant sur l'institution littéraire. Donc, dans cet exemple fictif, non seulement le Québec, par l'entremise d'un auteur, s'intéresse à Daigle, mais il se rend lui-même aux confins du sud-est du Nouveau-Brunswick pour travailler à un projet commun avec la romancière acadienne, fictive. Donc, bien au-delà des œuvres, c'est juste un exemple fictif pour faire sourire, la dépendance envers le centre littéraire québécois se fait sentir au plan sociologique. On pense entre autres, et peut-être surtout d'abord, au choix de lieu d'écriture. Un bon nombre d'écrivains reconnus dans la francophonie canadienne liminaire, pour emprunter le magnifique adjectif de Michel Biron, ont pris la décision de s'établir au Québec, plus précisément à Montréal. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, les départs de la périphérie vers le centre permettent aux auteurs d'obtenir un meilleur rayonnement. Ainsi, Antonine Maillet, installée à Montréal, sur la rue Antonine Maillet, ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce que je pensais qu'on pouvait juste donner des noms de rue aux gens qui étaient morts. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, Antonine Maillet, qui est à Montréal, a publié son œuvre entière au Québec. En fait, c'est peut-être l'écrivaine acadienne la plus reconnue, oui, mais je veux dire, celle qui est la plus connue, qui n'a jamais publié rien en Acadie. Donc, en fait, d'œuvre littéraire comme telle. Évidemment, elle écrit ses sketchs pour Le Pays de la Sagouine, mais ça, c'est dans une autre optique. Appartenant à la même génération littéraire que Gabriel Leroy, génération qui ne pouvait profiter de véritables éditeurs dans leur milieu d'origine, Maillet s'est intégré à l'Institution littéraire québécoise tout en se différenciant par une langue d'écriture atypique. Mais en fait, il faut comprendre ici que Maillet n'ira pas écrire une nouvelle langue, la langue réelle des Acadiens. Elle va prendre une langue où elle va se servir de mots archaïques français pour montrer aux Français que, regardez, la langue française du 16e siècle de Rabelais existe encore en Acadie aujourd'hui, et les gens en parlent comme ça. Et ça fait tellement pittoresque, c'est tellement vendeur pour un prix Goncourt, et c'est tellement moins controversé de donner un prix Goncourt à l'époque, en 70, à Antonine Maillet, que de le donner à un Hubert Aquin ou à un Régent Ducharme, etc., etc. Et on pourrait parler surtout de ce qui s'est passé après ça, mais donc c'est, ça reste qu'elle s'est différenciée par un. En fait, elle a trouvé la bonne distance. Parce que si elle décide de se différencier en écrivant dans une langue qui est incompréhensible pour les Français, elle n'aura aucune reconnaissance littéraire. Elle a trouvé la bonne distance entre écrire dans un français normatif et entre écrire dans une langue qui intéresserait un rayon de 30 km autour de Moncton ou de Bouctouche dans son cas. Un écrivain acadien comme Jacques Savoie a lui aussi choisi la traite du centre montréalais, pour reprendre l'expression de Pénélope Cormier. Jacques Savoie, en fait, personne ne le connaît, je pense, pour ses romans, à part peut-être Les Portes tournantes, mais tout le monde le connaît parce qu'il a écrit Les Lavigueurs. Il a écrit énormément de séries québécoises que vous avez peut-être écoutées, vous avez entendu parler, et aujourd'hui, on ne parle plus de lui du tout comme un écrivain acadien. Et d'ailleurs, il n'est plus vraiment enseigné dans les cours de littérature, ou presque. La littérature franco-ontarienne n'est pas en reste. Le triple lauréat du prix du gouverneur général, Jean-Marc Dalpé, réside au Québec depuis plusieurs années. Bien que ses pièces soient toujours jouées au Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury ou au Théâtre Périscope de Québec, il semble d'abord et avant tout un dramaturge en résidence du Théâtre de la Licorne de Montréal. Un autre cas bien documenté d'un départ définitif vers le Québec est celui du poète Patrice Desbiens. Autant dans sa poésie que dans un court film de l'ONF intitulé « Mon pays », Desbiens indique clairement que son cheminement personnel et littéraire restait voué à un cul-de-sac s'il ne quittait pas Sudbury. La schizophrénie de l'homme invisible ne pouvait se résorber que par un déménagement à Québec et par la suite à Montréal. Enfin, dans l'Ouest canadien, deux cas moins connus méritent d'être évoqués. D'une part, Roger Auger, même s'il n'a plus écrit après ses quelques pièces de théâtre, dont la célèbre « Je m'en vais à Regina », est parti du Manitoba en 80, l'année du référendum, pour des raisons surtout politiques. Il possède d'ailleurs une librairie dans le Vieux-Québec, j'étais rencontré il y a 6 mois, et puis il était très surpris que je le connaissais et que j'avais lu son œuvre. On se demande tout le temps qui arrive, c'est qui l'énergumène qui a lu des pièces des années 80. Et c'est une très bonne pièce, Je m'en vais à Regina, qui avait été... Il y a une préface de Jacques Godbout là-dedans que vous devriez lire, qui dure 4-5 pages et qui montre vraiment la position, si on veut, extrême des Québécois dans les années 60 par rapport aux francophones du Canada. Donc, d'autre part, l'écrivain, l'exemple du franco-manitobain Paul Savoie s'avère particulier. Au lieu de s'établir au Québec, il a quitté le Manitoba lui aussi pour s'installer dans l'autre centre littéraire du Canada, cette fois Toronto, afin d'y occuper un emploi plus stable et de poursuivre sa carrière littéraire, essentiellement en français tout de même. Bref, il est clair que ses choix de vie montrent que l'influence de l'institution littéraire québécoise affecte les écrivains de la francophonie nord-américaine. Il importe bien entendu de nuancer ses déplacements vers le centre par le nombre d'écrivains très importants qui sont restés en périphérie. Pour ne retenir que les plus importants et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut mentionner J.R. Léveillé, France Daigle, Daniel Poliquin, Hermann-Gilles Chiasson et Gérald Leblanc. Ces écrivains majeurs ont tous réussi à s'imposer tout en demeurant dans leur province d'origine. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Le nombre d'articles critiques ou de recensions au sujet de Poliquin et de Daigle, par exemple, n'est pas étranger au fait que leurs romans, plus ou moins récents, soient publiés chez Boréal, un éditeur québécois majeur. Quant à Chiasson et Léveillé, ils ont également publié au Québec et en Ontario. Enfin, si Gérald Leblanc a publié son œuvre entière en Acadie, il a établi, dès les années 80, de nombreux liens avec les écrivains québécois dont je vous ai parlé tout à l'heure, Beausoleil, Daou, Yolande Villemaire. Cette sociabilité littéraire témoigne justement d'une certaine forme de contiguïté littéraire. Donc, on essaie de se réunir et de voir les liens qu'on a en commun et non pas de rester dans notre coin et de vivre nos difficultés seules. La dépendance au centre fonctionne également en ce qui concerne les prix littéraires. La reconnaissance symbolique qu'apporte le prix Antonin de Meillet à Acadie-Vie, le prix France-Acadie, en Acadie évidemment, le prix Trillium en Ontario, le prix Rue des Chambeaux dans l'Ouest, le prix Champlain, qui est pour tous les francophones d'Amérique hors Québec, bien que touchante, donc la reconnaissance symbolique qui est bien que touchante, n'est en rien comparable à la reconnaissance associée au prix du gouverneur général ou au prix décerné au Québec. Certes, comme le faisait remarquer Robert Hergeau dans « À tout prix », jusqu'au milieu des années 90, et je le cite, « l'institution littéraire québécoise phagocytait les productions littéraires francophones dites hors Québec ». Si un jour vous avez l'occasion de le lire, le livre, c'est très polémique. J'aime pas sa plume nécessairement, mais l'ouvrage de Hergeau, À tout prix, ça vaut la peine de lire pour toutes les sortes de petits scandales et de petites révélations assez croustillantes. Donc, À tout prix. Cependant, les 15 dernières années suggèrent un revirement de situation qu'il faut souligner. Pour ne donner qu'un seul exemple, les prix du gouverneur général pour les ouvrages francophones ne sont plus l'apanage des auteurs québécois et des maisons d'édition québécoises. De façon non exhaustive, Jean-Marc Dalpé en 88, 99, 2000, François Paré en 93, Michel Ouellet en 94, Serge-Patrice Thibaudeau en 96 et 2007, Chiasson en 99, Robert Dixon en 2002, Emma Haché en 2004, Michel Bock en essai en 2005, Annette Hayward en 2007, ont tous été des lauréats du prestigieux prix, et ce, autant dans les catégories poésie, théâtre et essai. En fait, il n'y a presque rien dans la catégorie roman, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et l'autre chose, c'est qu'on pourrait vraiment se demander si c'est pendu l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a aucune pression, évidemment, sur les membres du jury. Il n'y a pas des pressions explicites. J'ai participé une fois à un jury du prix du gouverneur général, il y a 2 ans. Il n'y a pas de pression, loin de là. Sauf qu'on dirait quasiment que, inconsciemment, par défaut, on finit tout le temps par avoir à tous les 2 ans au moins une œuvre de la francophonie canadienne qui va gagner. Dans ces œuvres-là, la plupart, 95% peut-être le mérite, mais des fois, on peut se poser des questions. La dernière qui a gagné en essai, Pointe maligne, de Nicole V. Campeau, qui est une auteure franco-ontarienne, me semble un peu plus faible, mais on se demande un peu, bon, c'est vraiment les prix, il y a tout le temps des choix qui sont subjectifs. Donc, en ce sens, une mise à jour des idées avancées dans l'ouvrage de Hiergeau reste à faire. Parce que Hiergeau publie son livre dans les années début 90, 94. Donc, les auteurs franco-canadiens n'ont pas gagné tous les prix qu'ils ont gagnés par la suite pour le prix du gouverneur général. On peut tout de même se demander quel est l'impact réel de ces prix, dont le capital symbolique s'avère plus important que les prix régionaux. Pour se limiter à la littérature acadienne, il faut citer l'exemple de Serge-Patrice Thibaudeau, un des poètes les plus primés du Canada. En fait, Thibaudeau, à ses 7 premiers recueils, a gagné 7 prix littéraires, du moins important au plus important, mais il a gagné tous les prix qu'il pouvait remporter. Émile Nelligan, gouverneur général, France Acadie, Edgar L'Espérance en essai. C'est assez fascinant. Okay? Donc, les 7 premiers livres ont tous gagné un prix. De tous les prix remportés par l'auteur, les 2 prix du gouverneur général et le prix Émile Nelligan ont eu le plus d'impact sur sa carrière. Le recueil de poésie « Selon Ney », 2e prix du gouverneur général pour Thibaudeau, remis en 2007, a d'ailleurs connu un premier tirage de 525 copies, ce qui est tout à fait normal, en 2006, avec Personnage, et l'année de sa parution. Mais dès l'année suivante, Personnage était obligé de réimprimer un 2e tirage de 750 exemplaires. Donc, quand même, de vendre 1500 recueils de poésie d'un auteur acadien, c'est pas n'importe quoi, je peux vous le garantir. L'importance du prix littéraire national n'est certainement pas étrangère à ce succès. Le même phénomène s'est produit avec Alma, le premier recueil de l'Acadienne Georgette Leblanc. Ce recueil a remporté le prix Antonine Meillat-Cadivy et surtout le prix Félix Leclerc. Décerné à un auteur de moins de 35 ans, ce dernier prix n'est remis qu'à tous les 2 ans. Sans posséder le même prestige que le prix Émile Nelligan, qui vise également à récompenser les jeunes poètes, il demeure important en ce qui concerne le capital symbolique. Juste une petite parenthèse sur le prix Émile Nelligan. Dans le livre de Hiergeau, c'est assez fascinant. Il montre combien d'auteurs de 34 ans ou 35 ans moins un jour, donc entre 34 et 35 ans moins un jour, l'ont gagné à leur dernière année d'éligibilité. Comme si on se disait, il faut le donner là, parce que sinon, l'année prochaine, il va avoir 36 ans, on ne peut pas le donner. Okay? Donc, il y a une part de ça, si on veut, qui se retrouve là-dedans. Georgette Leblanc fut d'ailleurs la première lauréate non-québécoise du prix Félix Leclerc. Au plan de l'impression, Alma a connu un succès hors du commun. Un premier tirage de 506 exemplaires en 2006, suivi 7 mois plus tard d'un second tirage de 535 exemplaires et, le 30 novembre 2007, un troisième tirage de 787 exemplaires. Et les étudiants, dans le cours de l'introduction à la littérature de la francophonie de M. Bizansois, ont acheté, par à cause de moi, les dernières copies. Et il y a un 4e tirage qui s'en vient. Donc, en 4 ans, on pourrait dire que le livre s'est imprimé à plus de 2000-2500 exemplaires. Et là-dessus, il y en a, mettons, 2000 de vendus. Donc, on le voit, il existe une certaine forme de dépendance, okay, liée au prix littéraire, liée au lieu d'écriture, associée à la reconnaissance de l'institution littéraire dominante. Par ailleurs, les écrivains de la francophonie canadienne demeurent dépendants de la critique littéraire produite dans les journaux et les revues québécoises. Bien que la situation ait peut-être changé depuis que Paré écrivait en 92, je le cite, « Ce qui manque à des petites institutions littéraires, c'est le discours décalé, mémoire de la mémoire collective, dont les universités se font dans les cultures dominantes, les agents les plus empressés. » Fin de la citation. Donc, il n'en demeure pas moins qu'une critique favorable au Québec reste une autre forme de dépendance. D'ailleurs, au plan du discours critique, une des formes de plénitude de l'écrivain franco-canadien serait de faire l'objet d'un numéro spécial de la revue québécoise, de la littérature québécoise Voix et Images. Daniel Poliquin, France Daigle et René Chiasson font partie de ce groupe sélect. Une idée largement véhiculée dans les colloques et les articles scientifiques à ce sujet consiste à affirmer que les œuvres de la francophonie canadienne sont fort peu recensées au Québec. Deux nuances s'imposent à ce sujet. D'une part, il est vrai que les quotidiens du Québec se préoccupent moins de ces œuvres, à moins que celles-ci aient été publiées au Québec. Par exemple, France d'Aigle, quand elle a sorti ses deux derniers romans chez Boréal, a connu une couverture médiatique importante jusqu'à avoir un article dans l'actualité, ce qui montre, dans le fond, un passage différent. C'est pas juste dans Lettre québécoise ou dans Nuit blanche ou dans Le Devoir ou dans la presse ou Le Soleil. Quand ça passe à l'actualité, c'est une autre forme de reconnaissance, si on veut, à mon sens. Cette dépendance donc à une critique favorable au Québec existe tout de même. Ainsi, l'écrivain franco-manitobain Gérard Léveillé a toujours obtenu une bonne presse au Québec, et ce, dès 1975. D'ailleurs, en 78 ou 80, Réginald Martel disait « Le grand malheur de Léveillé, c'est d'être né au Manitoba. S'il était né au Québec, on en parlerait comme un auteur dans les ornières de Régent Ducharme. » Et selon lui, l'importance de Léveillé serait beaucoup plus, important s'il avait eu pas le bonheur nécessairement, mais s'il avait eu un autre destin géographique de naissance. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, par exemple, que le livre le plus vendu de Léveillé, Le Soleil du Lac qui se couche, qui a été publié au Manitoba aux éditions du Blé, a connu un meilleur succès de vente, justement parce qu'il a été recensé dans Le Devoir, dans la presse et même dans l'actualité par Gilles Marcotte, à l'époque, en 2001-2002. D'autre part, alors que les journaux font peut-être peu de cas de la production franco-canadienne, les revues littéraires Lettres québécoises et Nuit blanche accordent une place certainement appréciable et surtout non négligeable à la littérature acadienne. Je ne peux pas parler pour les autres littératures, je n'ai pas fait le test, mais j'ai recensé de 1996 à 2005, donc période pendant laquelle les écrivains hors Québec remportent de plus en plus de prix, on se rend compte qu'il y a une recension qui est plus qu'adéquate des œuvres acadiennes en regard de leur importance quantitative. Par exemple, dans Lettres québécoises, du numéro 81 jusqu'au numéro 120, on retrouve 48 comptes rendus critiques d'œuvres de littérature acadienne. Et dans Nuit blanche, de 1996 à 2005-2006, on en publie 43. Donc, il apparaît évident que les écrivains les plus recensés sont aussi ceux qui possèdent le plus grand capital symbolique, autant en Acadie qu'aux yeux de l'Institution littéraire québécoise. Malgré les difficultés associées à la dépendance des littératures francophones du Canada vis-à-vis le Québec, il serait faux d'y voir une force de domination purement négative. Comme le signale Pascal Casanova, et je la cite, « La dépendance littéraire favorise la création d'une sorte de gamme littéraire inédite que tous les écrivains dominés du monde ont à la fois à réinventer et à revendiquer pour créer la modernité, c'est-à-dire pour provoquer de nouvelles révolutions littéraires. » Fin de la citation. De la langue d'Antonine Maillet à celle de Georgette Leblanc, de la poésie urbaine de Gérald Leblanc à la dramaturgie minière de Jean-Marc Dalpé, de nombreux écrivains provenant d'un milieu minoritaire ont contribué à une petite, mais tout de même, une révolution littéraire pour leur milieu, certainement. Par ces quelques exemples de nature sociologique, il est clair que les littératures francophones du Canada dépendent, donc en grande partie, de l'Institution littéraire québécoise. Ce constat n'empêche pourtant pas les écrivains et les chercheurs issus des milieux exigus de prôner, avec raison, une certaine indépendance littéraire vis-à-vis le Québec. Cette indépendance trouve son fondement dans la contiguïté des littératures. À ce sujet, Hermine Gilles Chiasson demeure certainement le plus éloquent. Et je cite Chiasson ici dans un essai inédit. « J'écris du lieu de la dignité, car il est impensable qu'une population laissée à elle-même puisse avoir conçu une pareille humiliation. Les écrivains sont des éveilleurs de conscience, leur silence ne peut être qu'indécent. Je n'admets pas que l'Acadie soit en voie de devenir une réserve francophone, un territoire à plumes du Québec, de la France, et tant qu'à faire des États-Unis. That old lady, what's her name again? La Sagouine. » Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, vous ne l'avez peut-être pas reconnu parce que vous êtes tous trop jeunes, sauf peut-être André, désolé. Jean-Guy Pilon, dans un numéro de Liberté sur la littérature acadienne, sur la culture acadienne dans les années 60, au début des années 60, donc avant qu'il y ait une sorte de renouveau littéraire en Acadie, avait écrit « Moncton est une ville laide qui doit bien avoir été créée par quelqu'un », en disant que ça ne se peut pas qu'une population fasse une ville laide comme ça. Et on voit ici que Chiasson reprend, paraphrase ici, Pilon en disant « J'écris du lot de dignité car il est impensable qu'une population laissée à elle-même puisse avoir conçu une pareille humiliation, okay, ou une pareille ville laide ». C'est assez intéressant ce numéro-là de Liberté, si vous avez l'occasion de consulter au début des années 60. Donc, parlons maintenant de l'indépendance de ces littératures vis-à-vis de l'Institution littéraire québécoise. Seigneur, il est déjà 6 heures, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est pas grave, on n'est pas beaucoup, fait que je peux parler plus longtemps. S'il y avait juste deux questions avec René, ben il y en aurait encore moins ici, il y a moins de monde. Donc, dans les colloques, dans les collectifs, dans les cercles universitaires et dans les milieux culturels qui se penchent sur la francophonie canadienne, on a longtemps critiqué la position du Québec au lendemain des États généraux du Canada français à la fin des années 60. S'il est indéniable que les francophones ne résidant pas au Québec ainsi que leurs institutions ont été fragilisés par la rupture entre le Québec et l'idée d'une nation canadienne-française, il semble qu'il faudrait relativiser les conséquences à long terme de ces prises de position, du moins en ce qui concerne la littérature. François Paré faisait remarquer à juste titre qu'à la suite des États généraux, et je cite Paré ici, « la littérature québécoise, expulsant l'exiguïté et le manque, entendait s'instituer comme une littérature dominante. Et en fait, le stratagème a réussi au-delà de toutes les attentes, puisqu'à partir des années, à partir de 1970 environ, les lettres québécoises disposent de toutes les structures institutionnelles nécessaires et se proposent donc dans le concert des littératures mondiales comme une littérature hégémonique, évidemment à son niveau. C'est là un renversement idéologique absolument extraordinaire qui a modifié profondément les rapports entre la France et le Québec, mais aussi et surtout ceux que le Québec entretenait et entretient encore avec les autres littératures de l'exiguïté. » Fin de la citation. Le choix inéluctable de la littérature québécoise, lié au morcellement du Canada français tel qu'on le connaissait, a fait en sorte que les différentes communautés culturelles ont dû se prendre en main. En fait, au moment où les communautés francophones du Canada se définissaient selon une identité territoriale provinciale, le gouvernement fédéral allait augmenter les subventions pour les francophones en milieu minoritaire. Avant, on se définissait tous comme Canadiens français, une idée de nation et surtout une idée de nation fédérale. Le jour où les Québécois ont décidé de s'appeler Québécois et non Canadiens français, les autres communautés ne voulaient plus non plus s'appeler Canadiens français. L'Acadie, c'est un petit peu différent, mais les Franco-Ontariens, le terme, même s'il peut exister peut-être dans certains textes, existe vraiment depuis les années fin 60, début 70. Franco-Ontarien, Franco-Manitobain, Francescois, Franco-Albertin. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a une édition littéraire incroyable dans toutes ces provinces-là, mais l'appartenance est devenue beaucoup plus provinciale avec ces termes-là. Donc, ainsi, avec ces subventions-là, de plus en plus importantes avec Trudeau, les années 70, les premières maisons d'édition de la francophonie canadienne ont tous vu le jour dans les années 70, justement. Les Acadiens, les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains ont mis sur pied chacun de leur côté, et respectivement, les éditions d'Acadie en 72, les éditions Prise de parole en 73 et les éditions du Blé en 1974. Et selon moi, il ne fait aucun doute que l'abandon du Québec a servi de catalyseur au sens d'urgence de se doter de ses propres institutions littéraires, aussi fragiles soient-elles. En d'autres mots, et à l'instar de la constante relevée par Pierre Allen, on assiste dès les années 1970, et je cite Allen, à l'aspiration à une moindre dépendance par rapport aux contraintes matérielles et symboliques imposées par le centre, dont les intérêts ne s'identifient évidemment pas à ceux des périphéries. Fin de la citation. Cette aspiration s'est entre autres traduite par la création d'organismes culturels voués à la littérature dans toutes les provinces, où il y avait beaucoup de francophones en tout cas. En fait, compte tenu de leurs moyens, les petites littératures francophones du Canada ont créé diverses associations d'écrivains et le nombre de maisons d'édition a augmenté considérablement dans les années 80-90. Ainsi, en Acadie, l'Association des écrivains acadiens, fondée à Memramcook en 1978, a laissé la place à l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick en 1990. En Ontario, on va parler de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, AAOF.ca. Ça a été mis sur pied en 1988. De façon plus informelle, le collectif, post-néo-rialiste existe depuis 2001 au Manitoba. Donc, lié à Riel, évidemment, mais pour aller au-delà de Riel, qui est comme une figure omniprésente, avec Gabriel Roy, d'ailleurs, au Manitoba pour les francophones. Pourtant, au plan concret, les auteurs et les éditeurs en milieu minoritaire avaient difficilement accès au marché québécois et plus particulièrement au marché montréalais. D'où l'initiative de créer un regroupement des éditeurs canadiens-français, le RECF ou le RECF, en 1989. Comme le souligne la documentation de l'organisme, ce dernier, donc le RECF, je cite l'organisme ici, existe dans le but de permettre aux éditeurs francophones actifs à l'extérieur du Québec de mener des actions concertées dans le domaine de la commercialisation, de la promotion, de la représentation et de la formation. Bref, les bassins culturels francophones importants se sont d'abord organisés au plan régional, donc dans l'exiguïté, pour enfin se doter d'une structure nationale, comme le RECF, permettant de partager leur expertise et de faire front commun pour tenter de percer le marché québécois. Au plan institutionnel, alors que Paris parlait de l'exiguïté des petites littératures en 92, constat qui est impossible à nier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, les littératures francophones en milieu minoritaire évoluent en contiguïté. Cependant, il faut se rendre compte que cette approche nationale présente une limite qui souligne de façon cruelle l'alignation des littératures francophones du Canada face au Québec. On pourrait en effet croire que la création du RECF témoigne d'une autre forme de dépendance de la périphérie face au centre. Pourtant, malgré une commercialisation ciblée et la présence accrue du RECF dans les salons du livre importants, dont à Québec, ils vont être à Québec encore cette année, le lectorat au Québec continue de faire défaut. Roxane Charlebois, ancienne agente de commercialisation pour l'organisme, précisait lors d'un entretien téléphonique que les livres des éditeurs franco-canadiens se retrouvent sur les tablettes, mais qu'ils ne se vendent pas nécessairement mieux au Québec. Qu'ils soient entreposés chez le distributeur Prologue, avec des coûts assez élevés, et qu'ils soient sur les rayons des librairies québécoises, il semblerait que les livres publiés au Manitoba, en Ontario ou en Acadie, se vendent d'abord et avant tout dans leur région respective, ce qui est un peu normal. Mais elle est même à la librairie Pantoute sur Saint-Jean, beaucoup plus bas, et j'étais étonné. Il y avait toutes les nouveautés des auteurs franco-canadiens sont tous là, bien en vue. Et je ne suis pas sûr que c'est. Je serais curieux de faire un sondage à la Ville de Québec qui, quand Franzek va sortir son roman, son roman après 8 ans d'absence chez Boréal à l'automne, qui va aller chez Olivieri à Montréal ou à Zone pour dire je vais aller l'acheter à part moi puis peut-être mes étudiants parce qu'ils n'ont entendu parler. Je ne suis pas certain. Donc, on peut alors se demander si la création du RECEF aurait surtout permis aux éditeurs de la francophonie canadienne de mieux s'organiser, de mieux se connaître, de tisser des liens entre francophones contigus, ce qui reste évidemment un apport non négligeable. Par ailleurs, les auteurs de la francophonie canadienne les plus lus sont sans grande surprise, encore une fois, ceux qui sont publiés au Québec, notamment Poliquin, Daigle, Claude Leboutillier, Jacques Savoie. Bref, il ne fait pas de doute que les littératures francophones du Canada restent, par obligation et indifférence, indépendantes de l'institution littéraire québécoise quand il est question de lectorat. Okay? Parce que dans le fond, le lectorat, il est d'abord et avant tout dans les régions. Et quand on fait un lancement d'un livre de l'éveillé au Manitoba, bien, t'es certain qu'il y a 250 personnes qui vont acheter son livre en partant. Okay? C'est les 250 suivants qui sont peut-être plus difficiles à vendre en dehors du Manitoba. Lié à ce constat, il existe au moins deux autres domaines complémentaires qui témoignent de l'indépendance de ces littératures francophones, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Comme on le sait, la légitimation des œuvres passe d'abord et avant tout par l'enseignement. Cette légitimation demeure certes subjective, car chaque professeur choisit les œuvres au programme en fonction de divers critères. Comme le précisait Paré, je le cite, « Du moment qu'elle est publiée et mise en circulation, l'œuvre littéraire entre dans un processus de diffusion, de lecture, de relecture et d'interprétation et de normalisation. En fait, ce ne sont pas les œuvres, mais ces derniers et importants processus régulateurs qui manquent justement, tragiquement, aux petites cultures. » La tâche du professeur comprend, entre autres, ses fonctions, donc de normalisation, d'interprétation, etc. En ce qui concerne les littératures francophones du Canada, il faut noter qu'elles sont enseignées depuis une trentaine d'années dans leurs régions respectives. Que l'on pense aux précurseurs comme René Dionne, dont je parlais tout à l'heure à l'Université d'Ottawa, Marguerite Meillet à l'Université de Moncton, ou encore les chercheurs de la deuxième génération comme Lucie Hott à Ottawa, Lise Gaboury-Diallo au Manitoba, ou Raoul Boudreau à Moncton, pour ne nommer que ceux-là, ces professeurs enseignent dans leurs universités des œuvres surtout issues de leur communauté littéraire. Ils participent tous à la légitimation de ces littératures. Quant à la situation dans les universités québécoises, il faut bien admettre que celle-ci s'est améliorée depuis une dizaine d'années. Certains professeurs s'intéressent aux littératures francophones du Canada par la bande, d'autres plus rares en font leur objet d'études principales. On pense entre autres à Lise Gauvin, François Ouellette, Catherine Leclerc ou encore Pierre Neveu. Il importe tout de même de relativiser ce constat. La majorité des départements d'études littéraires offrent au moins un cours, par exemple, sur la littérature africaine ou antillaise et ou maghrébine. Qu'on prenne n'importe quelle université, il va tout le temps avoir un cours dans ce domaine-là minimalement. Quand c'est les plus grandes universités, il va en avoir plus qu'un. Mais peut-on en dire autant en ce qui concerne les littératures francophones du Canada? Évidemment non, mais en même temps, leur importance relative est beaucoup moindre que littérature africaine et autres. Au sujet de la recherche, le même constat s'impose. Les universités francophones et ou bilingues de la francophonie canadienne ont créé un bon nombre d'institutions se consacrant à l'histoire, à l'ethnologie, au folklore, à la langue, à la littérature de la région respective. Seulement l'Université de Moncton, on trouve le Centre d'études acadiennes qui existe depuis 1968, la chaire d'études acadiennes depuis 1982, la chaire de recherche McCain en ethnologie acadienne, l'Institut d'études acadiennes en 2006. À ces organismes, il faut ajouter la création d'une, qui ressemble un peu d'ailleurs au nom, celle-là, d'études québécoises, mais l'Association internationale d'études acadiennes qui existe depuis 2004, l'année du 400e anniversaire de la présence française en Amérique. Donc, la liste d'organismes semblables serait tout aussi longue pour l'Ontario. Ottawa, par exemple, avec les chaires sur la francophonie canadienne, il y en a une en histoire, une en littérature, etc. Ou à Sudbury, avec l'Institut franco-ontarien. Donc, on le voit que ces littératures et ces domaines de sciences sociales et littéraires ont créé leurs propres organismes d'études parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils comptent sur leurs propres moyens et qu'ils soient financés. D'ailleurs, c'est souvent dans ces universités-là les axes de recherche importants. Donc, à Moncton, un des trois axes de recherche de l'université au complet, c'est la spécificité des études acadiennes. Pendant longtemps, ils ont essayé de faire une maîtrise en études acadiennes et ça n'a jamais passé, mais ils essayent encore une sorte de maîtrise multidisciplinaire, multifacultaire. Donc, en guise d'ouverture conclusive, si on veut, pour cette partie-là, je voudrais parler d'interdépendance entre ces littératures. Et interdépendance avec un point d'interrogation, parce que j'en suis pas certain. Serait-il possible de concevoir une interdépendance sans paternalisme entre le centre québécois et la périphérie franco-canadienne? Au-delà de la dépendance certaine et de l'indépendance toujours à conquérir, y aurait-il moyen de comprendre les différents agents du système littéraire francophone canadien dans une relation d'interdépendance, de contiguïté? Il est vrai que cette possibilité reste la plus délicate à circonscrire et que pendant longtemps, l'institution littéraire québécoise s'employait, consciemment ou inconsciemment, à nier ou en tout cas à minimiser l'existence des littératures francophones au Canada. S'il existe une véritable interdépendance dans ce système littéraire, aussi minimale soit-elle, comment celle-ci se module-t-elle? Oserions-nous avancer qu'au seul plan institutionnel, la littérature québécoise dépend aussi, à sa façon, des petites littératures francophones qui gravitent dans son univers? Non, certainement pas. D'ailleurs, en citant Paris plus haut, nous évoquions le fait que la littérature québécoise existe maintenant par elle-même dans toutes les sphères de société. Et c'est aussi lié au fait de l'enseigner au cégep. Et ça, c'est l'enseignement, c'est quelque chose de crucial. Si les différentes communautés francophones décidaient qu'en 12e année ou en première année d'université, que tout le monde devait suivre un cours de littérature acadienne, ou même un cours qui rassemblerait toutes ces littératures-là, obligatoire pour tout le monde qui étudie en génie, ou en travail social, ou en littérature, ou en histoire, ça pourrait faire toute une différence dans la connaissance même interne et locale de ces littératures-là. Donc, en une quarantaine d'années, la littérature québécoise s'est imposée autant à l'université que dans la société de consommation. Malgré le marché relativement petit auquel elle s'adresse, la littérature québécoise rayonne à un tel point que presque la totalité des départements de littérature française dans les universités canadiennes emploient au moins un spécialiste de littérature québécoise. Peut-être que cette personne-là, ça sent un peu folklorique, mais prenez n'importe quel département, que ce soit à Saskatoon, à Regina, au Manitoba, à Toronto, il va tout le temps avoir un professeur, rarement deux, selon la grosseur de l'université, mais de littérature québécoise. À Halifax, vous avez Irene Orr, vous avez eu Bette Bernadicki, qui est à la retraite maintenant. Il y en a partout, à Moncton, Jean Morancy, Hélène Détrempe. Bon, donc, ça témoigne de l'importance de cette littérature-là, certainement. Donc, que reste-t-il à faire? Quel est le rôle institutionnel de la littérature québécoise aujourd'hui? Si la littérature québécoise était la seule littérature francophone en Amérique, son importance, à mon sens, serait moindre. La littérature québécoise a la chance d'utiliser un code partagé par des millions de lecteurs dans le monde et aussi d'être le centre de la francophonie au Québec, au Canada et en Amérique. À l'image de la France, qui occupe une position de force face aux littératures belges, suisses romandes, africaines, etc., le Québec doit continuer de s'ouvrir aux littératures francophones du Canada pour agir comme chef de file, comme point de rencontre entre les littératures moins importantes au plan quantitatif, mais valables et uniques en Amérique. Il semble d'ailleurs que l'institution littéraire, même timidement, le reconnaît de plus en plus. À preuve, dans le magistral ouvrage de mon collègue François Dumont et de Michel Biron et d'Elisabeth Nardou-Lafarge, donc l'histoire de la littérature québécoise, on consacre, évidemment pas 50 pages, mais on consacre quand même 5-6 pages aux littératures francophones du Canada. Ce qui me semble qu'on n'aurait pas vu ça il y a 30 ans. On ne parle pas de la même façon. Au-delà de cet exemple, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le Québec fait preuve d'une ouverture importante depuis une quinzaine d'années. Dans le domaine scientifique seulement, en plus des numéros de Voix-Image déjà mentionnés, la revue Tangence s'est penchée, dans le numéro 56, sur les postures scripturaires dans la littérature franco-ontarienne, et le numéro 58 portait sur le postmoderne acadien. Deux autres exemples, qui sont moins scientifiques, mais qui sont tout de même intéressants, méritent notre attention. Le numéro 115 de la revue Nuit Blanche, paru au cours de l'été 2009, propose un dossier sur la littérature acadienne. Anne-Marie Guérineau, la directrice de la publication, affirme dans la présentation, et je la cite, « Les analogies entre le parcours littéraire du Québec et celui de l'Acadie ne manquent pas. Mais au-delà des ressemblances, c'est à la découverte de la singularité, de la riche complexité et de la remarquable vitalité de la littérature acadienne actuelle que vous invite ce numéro de Nuit Blanche. » Fin de la citation. Il s'agit d'un signe d'ouverture probant de la part d'une revue à vocation non scientifique, dont le siège social se trouve justement dans la ville de Québec. Dans une perspective plus large, le numéro 154 de la revue Québec français, paru aussi à l'été 2009, présente un volumineux dossier sur les littératures francophones dans les Amériques. Donc, autant le Québec que toute la littérature francophone dans les Amériques, et ça va jusqu'au Mexique, jusqu'au Brésil. Dans son éditorial, Aurélien Boivin mentionne, et je le cite ici, La revue Québec français est fière d'apporter son soutien à une cause qui lui tient à cœur, le dialogue entre les francophones et francophiles des Amériques et la défense de la langue française dans ses diversités sur le continent. Fin de citation. Encore une fois, l'ouverture du Québec à une francophonie pancanadienne ou continentale témoigne d'un certain retour du balancier où la contiguïté prend le pas sur l'exiguïté. Ce retour du balancier n'est peut-être pas mieux illustré que par une réponse de J.R. Léveillé lors d'un entretien avec Laurence Véron en 2001. Après avoir expliqué sa position au sujet du développement de la littérature québécoise depuis les années 50 et le parallèle avec la littérature francophone du Canada, Léveillé avance, et je le cite, « qu'il faut se tourner vers les autres, et certaines personnes au Québec n'ont plus peur de faire ça. Ils veulent mettre de côté ce qu'on a appelé la québécitude et s'ouvrir à autre chose. C'est enrichissant pour tout le monde. Il faut que ça se fasse d'égal à égal, pas au niveau des nombres. Il faut que chaque francophonie reconnaisse sa valeur et son mérite et prenne sa place. » Il ne s'agit pas ici, c'est moi qui parle, là, de croire que la littérature acadienne, franco-ontarienne ou franco-manitobaine doit servir de faire-valoir à la littérature québécoise. Si la relation entre les différentes institutions littéraires demeure toujours asymétrique, il n'en reste pas moins qu'elle évolue et ne ressemble plus à celle qui prévalait il y a une vingtaine d'années. Bref, les littératures francophones du Canada enrichissent le patrimoine culturel de la Franco-Amérique. Au-delà du point de vue éthique, l'institution littéraire québécoise n'a plus à nier ses littératures pour mieux exister elle-même. En ce sens, au moins, une forme d'interdépendance, d'ouverture dans les deux sens, de contiguïté, unit toutes les littératures francophones du Canada. Donc voilà un peu pour la partie institutionnelle. Je pense que je vous ai montré un peu la dépendance, l'indépendance et la possible interdépendance qui ne sera jamais d'égal à égal, c'est bien évident, parce que c'est une question de nombre. Mais je pense qu'il y a une certaine forme de contiguïté qu'on peut voir. Et cette contiguïté-là, institutionnelle, on la voit aussi par les œuvres. Je vais vous donner deux exemples, dont un que je ne vous citerai pas pour deux raisons, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et surtout parce que j'ai oublié mes feuilles, parce que j'étais pressé. Donc j'ai oublié des exemples, mais je vais quand même vous le résumer parce qu'il est facile à trouver quand même, au moins le premier exemple. Antonin Maillet, que vous connaissez tous certainement, peut-être pour avoir lu justement un livre, et c'est La Sagouine, et c'est peut-être le seul que vous devriez lire si vous en avez un à lire. Dans La Sagouine, il va faire différents monologues, dont un qui s'appelle Le Recensement, qui est peut-être le meilleur monologue du lot. Et dans Le Recensement, il y a des encenseux qui viennent chez eux, chez elle et son mari, donc des recenseux, des recenseurs du gouvernement. Les encenseux viennent chez eux pour lui demander toutes sortes de questions sur sa famille, puis les gens qui habitent là. Et elle demande sa nationalité, sa citoyenneté, donc j'ai pas du tout l'accent acadien, surtout la manière de Maillet l'écrit. Et là, elle commence à se poser toutes sortes de questions. Ben, on n'est pas Américains, parce que les Américains, eux autres, ils parlent anglais, tout ça. On n'est pas des Canadiens anglais non plus. On n'est pas Français, les Français, ceux qui vivent en France. On n'est pas des Canadiens français non plus. Les Canadiens français, c'est ceux qui sont au Québec. Et à la fin, elle dit, ben, donc, ils sont peut-être Acadiens. Puis là, le reste, l'encenseux va dire, ben, il ne peut pas être acadien, ça n'existe pas, c'est pas une nationalité possible, ça ne marche pas. Donc, bref, elle se pose la question, qui sommes-nous, qui on est? Et j'aurais aimé vous le lire, mais je ne l'ai pas. Et dans les années 2000, Kirby Jambon, qui est un poète de la Louisiane, il a écrit un recueil qui s'appelle L'École Gombeau. Et dans L'École Gombeau, il se pose, il y a un poème qui n'est pas très bon au plan esthétique, mais qui est très intéressant au plan identitaire, qui se demande, le poème s'intitule « Qu'est-ce qu'on est, nous? » Et dans le poème, il pose exactement les mêmes balises que Maillet. Il va dire, par exemple, ben, je suis américain, mais je suis pas américaine. Je suis pas français. On dit des Cajuns, mais on dit pas des Cajuns parce que ça c'est péjoratif, parce que c'est les Américains qui les appelaient comme ça, etc. Donc il se pose des questions. Finalement, il dit, je viens peut-être de l'Acadie ou de l'Acadie, etc. Puis finalement, à chaque fin de strophe, il dit ou peut-être que non. Dans le fond, il dit qu'il y a peut-être quelque chose ou peut-être que non, parce qu'il est pas certain. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et peut-être qu'il y a lu Maillet, oui, mais Kirby Jambon est quand même un gars qui doit avoir une trentaine d'années maintenant, mais il n'est pas né certainement avec Antonin Maillet dans les mains et il se pose juste les mêmes questions identitaires. Et là, c'est peut-être un exemple qui est le plus simple, le plus facile. On pourrait trouver d'autres exemples comme ça au plan d'identité. Mon autre exemple est peut-être plus intéressant encore parce qu'il met en opposition deux personnes qui ont un parcours complètement différent, autant au plan intellectuel que de cheminement, si on veut, géographique. Ils sont très connus, par contre, c'est Herménégilde Chiasson et Patrice Desbiens. Chiasson est un intellectuel qui a un doctorat de la Sorbonne en art visuel, qui a enseigné à l'Université de Moncton, qui est devenu lieutenant-gouverneur général, lieutenant-gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick, qui a fait à peu près 25 pièces de théâtre écrites, un nombre incroyable d'expositions en art visuel, des essais, des films, et une œuvre littéraire importante en poésie surtout. Okay? Donc, un intellectuel, un des rares en fait en Acadie, parce qu'on pourrait faire une étude des auteurs les plus importants et le niveau de scolarité est assez limité. Okay? Ils sont arrivés par la littérature d'une autre façon. Et le parallèle se fait avec Patrice Desbiens. Patrice Desbiens, qui n'est pas acadien, qui est franco-ontarien, mais qui est tout le contraire de Chiasson au plan du rapport aux intellectuels. Okay? Il aborde les intellectuels et c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de scolarité nécessairement. Disons qu'il ne fréquente pas le même milieu et il ne serait jamais devenu lieutenant-gouverneur. Il ne deviendrait jamais lieutenant-gouverneur ni au Québec, ni en Ontario. C'est certain. Okay? Par contre, on retrouve le même, et là c'est peut-être plus lié à l'exiguïté, mais c'est quand même intéressant le rapprochement parce que c'est écrit à la même période, dans les années 70. Chiasson, en 74, si je ne me trompe pas, publie son premier livre, « Mourir à Skoudouk ». OK? Et juste par le titre, « Mourir à Skoudouk », Skoudouk, c'est un petit village en banlieue de Moncton, c'est désolé, c'est désert, donc mourir dans l'indifférence à Skoudouk. Et Desbiens, évidemment, qui parle de Sudbury, de Timmins, mais surtout de Sudbury, d'une même façon. J'aimerais vous lire deux extraits qui sont assez longs. Il y en a un que je vais lire, je vais peut-être vraiment couper, mais je vais lire un poème au complet de Chiasson, parce que vous pouvez voir, c'est quand même assez touchant. Dans Mourir à Skoudouk, qui écrit le poème qui s'appelle Jaune. Et le poème jaune est lié au poème rouge et au poème bleu, qui sont les couleurs du drapeau de l'Acadie. Et le dernier poème de cette suite-là s'appelle Noir, qui n'est pas une couleur du drapeau, mais qu'on voit le pessimisme aussi de l'œuvre. Donc, Jaune. C'est écrit de façon. C'est de la prose poétique. Okay? Il n'y a pas d'alinéa, rien. C'est un long paragraphe. Écoutez bien l'extrait et voyez après ça Desbiens. L'Acadie qui fond comme une roche au soleil. Tranquillement, nous fondons au soleil de méthane, de plastique, d'acier, de tout le monde du plus fort, de l'humiliation collective, de la patience et du raisonnement. Nous comprenons tout, nous comprenons qu'après avoir demandé poliment, on nous dise que nous en avons trop. Nous savons dire « Please a minute, please pardon me, please thank you so very much, please don't bother, please I don't mind, please » et encore « You're welcome, please come again, please anytime » Please don't mention. Please, please, please. Please kill us. Please draw the curtain. Please laugh at us. Treat us like shit. Please. Le premier mot que nous apprenons à leur dire et le dernier que nous leur dirons, please. Please make us a beautiful ghetto. Not in a territory. No, no, right in us. Make each of us a ghetto. Take your time, please. Nous fondons comme une roche à la chaleur de l'indifférence, de la tolérance, de la diplomatie, du bilinguisme, du bien-être social, de l'esprit de clocher, de la patentisation du soleil, de l'autruchisation de notre vue sur le monde, de l'aplaventrisme chronique, du « stand by, please, stand by, one, two, three, test, test, test ». Donc ça, c'est Desbiens, c'est Chiasson. Et dans le poème suivant, que je ne dirais pas au complet de Chiasson, qui s'appelle « Mourir à Skoudouk », donc titre éponyme du recueil et d'un poème. Il va dire dans le poème, je ne l'irai pas au complet parce qu'il est vraiment long, il va dire « Je suis venu voir la fin comme un ciel déchiré en forme de fin du monde. » Il va dire « Skoudouk était calme, aplati dans le soleil, aplati sur la terre comme une feuille. » Il va dire après ça « J'entendais les roches qui glissaient et les racines qui s'enfonçaient et qui bougeaient à travers la planète. » Il va dire encore « Les nuages se démanchaient dans le creux du ciel et descendaient de façon inquiétante vers le royaume de Skoudouk. » Et il va terminer en disant « Skoudouk est l'univers entier du bénir, le culte du désespoir du ciel trop bas, parce que parler, c'est pas la mer à boire, c'est le ciel à avaler. Comme un peu tout le monde qui, pour parler, fait une grande consommation d'air qui est bleu, parce que photographier de la lune. » Et voyez un peu l'ensemble. Et Patrice Desbiens, dans un poème qui date de la même époque, va dire les choses suivantes. J'ai oublié le titre du poème parce que j'ai juste trouvé l'extrait, mais c'est pas grave. Je vais le lire au complet parce qu'il y a des passages, on dirait qu'il écrit la même chose. Okay? Je m'assois devant cette machine et je contemple la page vide. Je me demande ce qu'il y a de si urgent à dire, les beaux mots, les tournures de phrases, les métaphores qui me cherchent, qui m'attendent à chaque coin de rue, comme, transformer mon ennui en poésie. Pour qui? Toi? Moi? Pour les mangeurs de littérature? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Pour entendre ma voix dans le vide? Je m'assois devant cette machine à écrire et je contemple mon succès avec le vide. Dehors, le coucher du soleil maquille les roches de Sudbury. Tandis que tu te bronzes dans le regard de tes amis, je me promène dans les rues de Sudbury. Je fais semblant que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Je visite des amis et je m'ennuie. Je prends une bière à Coulson et je m'ennuie. Ça continue comme ça. Ces jours-ci, j'ai besoin de tes premiers soins. J'ai besoin de ton baiser pour guérir la cicatrice qui est devenue ma bouche. J'ai besoin de la camisole de force de tes bras pour me garder sain d'esprit. Si tu savais ce qui brûle dans ma tête, ta voix dans ma tête, ta voix logée dans une tête, dans ma tête comme une balle de 38. Je me promène comme un zombie dans les rues de Sudbury, comme dans les rues du Koudouk. Sudbury, la ville où je me suis trouvé. Sudbury, la ville où je me suis perdu. L'ennui. La nuit noire, comme un téléphone qui ne sonne pas. Je bois jusqu'à la fin, je bois jusqu'au soleil, jusqu'au sommeil. Une canne de bine avant de me coucher et avant de m'endormir, je gémis comme si tu m'avais touché. Le désespoir du dimanche soir qui nous amène à boire sans le vouloir. Des visions de se faire sauter la cervelle parce qu'on aime quelqu'un qui n'est pas là, parce qu'on a besoin de quelqu'un, etc., etc. Et donc, il dit, on vit dans la lumière lancinante des jours beaux et longs. On lève notre verre et on cherche quelqu'un de vrai et de bon. On regarde l'heure. Et ça continue comme ça, autant au plan du désespoir, de l'ennui et du vide. Et l'ennui que Desbiens ressent dans son poème est tout à fait similaire à l'ennui que Chiasson ressent dans son poème. Évidemment, le parcours des écrivains a beaucoup changé par la suite, mais c'est assez fascinant que Chiasson va dire... que l'Acadie qui fond comme une roche au soleil, tranquillement nous fondons, etc. Et que Desbiens dit « Dehors, le coucher du soleil maquille les roches de Sudbury ». Et que cette métaphore filée-là, si on veut, est inconsciente des deux auteurs, évidemment, parce qu'ils ne savent pas que l'autre fait la même chose. Elle se rapproche partout. Et on va retrouver la même position de « Skoudouk devient pour Desbiens, Sudbury ou Timmins ou Hearst ou n'importe quelle petite ville. Évidemment, ça pourrait être les villes... ça pourrait être ici un exemple, en fait, c'est un exemple typique de ce que Pierre Neveu a appelé le complexe de Kalamazoo, donc ces petites villes un peu fantômes comme Flint au Michigan, etc. Et Sudbury et Moncton et tout. Donc, il y a énormément d'exemples comme ça. Et évidemment, on pourrait se dire, oui, mais Chiasson, après ça, a beaucoup changé son style d'écriture, il est beaucoup moins revendicateur. En partie, c'est vrai. Sauf que, rappelez-vous que Desbiens, pour ceux qui l'ont lu un peu, va se servir de ses objets du quotidien pour faire de la poésie, de ses cannes de bine, de ses canettes de coke, de bière, etc., de toutes sortes d'objets menus. Et Chiasson, dans un style peut-être beaucoup plus soutenu, va faire exactement la même chose avec ses recueils qui sont des listes d'objets, comme répertoire, comme conversation, qui est une liste ici de phrases qu'on pourrait se dire dans une conversation. Répertoire, c'est un bon exemple. Il va faire 500 poèmes, chacun sur un objet en particulier. Donc, les deux auteurs se rapprochent énormément. Et d'ailleurs, dans le poème « Mourir à Skoudouk », Chiasson va faire exactement comme Desbiens. Il va parler d'objets du quotidien. Et l'homme de Glad qui ressemblait à Monsieur Net et qui mettait les déchets dans des sacs de plastique vert pour les laisser à des ramasseurs de déchets nationalité canadienne-française. Et le chevalier Ajax qui était tombé en bas de son cheval et s'était enfoncé la lance de bord en bord du corps. Donc on voit tout le désespoir si on veut. Et évidemment, ce sont des deux poètes fondateurs pour François Paré et ses littératures de l'exiguïté. Et en ce sens-là, on pourrait dire que la conséquence de l'exiguïté, c'est justement de s'en aller vers une contiguïté et de se rendre compte qu'on a des liens en commun et de se créer des liens ensemble pour arriver à autre chose. Je termine avec une conclusion écrite cette fois, un paragraphe, et on arrête ça là. Enfin, il est clair que l'exiguïté de la Franco-Amérique proposée par François Paré se rapproche plus de la détresse que de l'enchantement. Ce constat n'enlève absolument rien à l'incontournable pertinence de sa réflexion. Cependant, à l'opposé de la Franco-Amérique de Patrice Desbiens, d'Hermann Hégé Chiasson, de Pierre Albert, d'André Pémant, on retrouve une Franco-Amérique plus festive, plus jouissive, qui reste certes lucide de sa propre fragilité, mais qui n'en fait pas sa posture centrale. Je pense par exemple au dernier recueil de Georgette Leblanc, dans lequel les personnages se déplacent de la Louisiane au Grand Texas. Il faut voir dans le personnage d'Amédée, qui est aussi le nom du recueil, donc c'est la suite d'Alma, si on veut, des liens évidents avec la figure de l'étranger rappelant le survenant de Germaine Guévremont ou le vagabond de la nouvelle « Un vagabond frappe à notre porte » de Gabriel Roy. Et je cite ici Amédée, c'est exactement la même chose. Donc c'est de la poésie, mais qui est une poésie narrativisée chez Georgette Leblanc. Ça va comme suit. « Amédée était trop beau pour rester étranger. Son grand corps musclé était trop calme et souriant pour rester seul. Les enfants braquirent à le suivre, commençaient à le suivre, à lui demander de raconter des histoires et des contes. Et chaque fois, il en sortait une histoire raccommodée. Amédée faisait de chaque personne qui s'approchait parenté. » Donc ça, c'est Georgette Leblanc. Ce passage témoigne, à mon sens, d'une fiction des littératures en contiguïté qui n'est pas seulement qu'une friction de l'exiguïté. Merci.
Merci. Je vais me permettre de rebondir immédiatement parce que ça va dans les remerciements en même temps parce que personnellement, c'est vraiment un corpus que je connais peu. Et même si tu disais que depuis une quinzaine d'années, je crois, il y a vraiment des efforts faits ici au Québec, des numéros de revues, puis on inclut le corpus dans les anthologies, où il reste que, à la limite, on connaît Béatrice Desbiens de nom ou d'autres aussi, mais de là à les lire, je crois qu'il y a encore une marge. Et ce qui me semble paradoxal, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui dans la littérature au Québec qu'on cherche à s'ouvrir, en fait, qu'on n'est plus trop centré sur nous-mêmes, mais que les écrivains convoquent l'Europe et l'Amérique du Sud, et etc. Et on ne parle jamais qu'ils s'ouvrent au Canada et encore aux Canadiens français parce que c'est pas un corpus, j'imagine, qu'ils ont pu lire avant. Donc, ça fait pas partie de leur réalité. Et visiblement, ça fait pas partie de la mienne non plus. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement à ce que vraiment il y ait une ouverture?
Franchement, je vais te donner un bon exemple. Tu sais, tu as participé au cours juste pour une séance, évidemment, sur Gaétan Soucy. J'ai donné deuxième session à l'Université Laval un cours de théorie de la lecture. Donc, c'est un cours de théorie. J'ai fait lire des œuvres théoriques, d'abord et avant tout, des textes théoriques, évidemment. Mais pourquoi prendre nécessairement Gaétan Soucy, que j'adore, pour montrer des exemples de problèmes de lecture, de difficultés, etc., octoriales et tout, donc de processus symboliques et tout, dans les processus de Bertrand Gervais, de Gélétérien? J'ai décidé de prendre J.R. Léveillé. Donc, deux œuvres extrêmement complexes de Léveillé, selon moi, pas les plus difficiles, mais deux de ses œuvres les plus difficiles à lire. C'est toujours bien 75 personnes qui, dans une même session, au Québec, à l'université, oui, d'accord, mais on lut J.R. Léveillé. Donc, évidemment, on n'est pas à 30 000 exemplaires vendus, là, c'est pas Marie Laberge, hein? Puis de toute façon, il aspire pas du tout à ça non plus. Mais c'est un début d'ouverture. Quand j'ai donné puis là, évidemment, c'est sûr, c'est mon propre exemple, mais juste le fait, puis peu importe les tribulations qu'il y a derrière de tout ça, juste le fait de créer un poste comme j'occupe ici à Laval, ça fait toute une différence, je pense, parce que Julia, qui est là, n'aurait pas fait sa maîtrise sur l'éveillé. Elle ne ferait pas son doctorat là-dessus si elle décide de poursuivre dans ce domaine-là aussi. Je pense que d'autres personnes comme Pascal Marcoux ne feraient peut-être pas son mémoire de maîtrise sur Joséphine Bacon si, d'une façon, parce que les littératures autochtones font partie d'exécuter aussi, on en parle moins parce qu'on les connaît encore moins. Mais donc, en ce sens-là, ça ne sera jamais la masse, c'est certain. Mais déjà, d'en entendre parler, c'est déjà bien quelque chose. La première fois que j'ai donné mon cours, là, pas la théorie de la littérature, mais théorie de la lecture, mais le premier cours, première session, mon premier cours à l'université, je me rappelle une étudiante, je n'ai plus son nom, mais elle m'avait dit, au début, elle regardait plein de cours, elle dit, mais je ne connais aucun auteur à part Gabriel Roy, puis c'est tout, parce que je n'avais pas mis Anthony Maillet de toute façon. C'est un cours plus systématique sur le sens de l'espace dans les littératures francophones du Canada. Mais je dis justement, c'est pour ça que je donne le cours, pour que vous appreniez des auteurs, que vous connaissiez des auteurs. J'ai une étudiante qui travaille sur France d'Aigle, à la maîtrise présentement, etc. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu es d'une autre génération déjà. T'sais, si tu avais suivi un cours avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou avec Pierre Neveu à Montréal, ou Lise Gauvin, ou François Ouellette, lentement, mais sûrement, écoute, l'objectif, de toute façon, là, on va donner un dernier exemple. Les Acadiens sont 250 000, OK? J'imagine que la région de Sherbrooke, la grande région de Sherbrooke, qu'il y a plein d'auteurs qui viennent de là, sont aussi 250 000. Dans le monde entier, là, on parle de façon beaucoup plus disproportionnelle de la littérature acadienne que de la littérature sherbrookoise. OK? 250 000, là, c'est vraiment peu. Pourtant, on parle énormément. Il y a des numéros de revues. J'ai vu une au Brésil, okay, sur la littérature acadienne, écrit en portugais. J'ai pas été capable de la lire, mais elle était là. En Allemagne, des numéros de revues publiés aussi, ou des collectifs. Donc, à Poitiers, évidemment, ça, c'est logique. Mais aux Pays-Bas aussi, avec Jeannette Dentonder, qui travaille aussi sur la littérature québécoise et acadienne. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi que du jour au lendemain, ça ne sera pas de changement, mais je pense que le changement se fait de façon individuelle. Puis, je vais donner un dernier exemple, parce que j'en ai un autre. J'ai donné le cours de genre littéraire à la dernière session à un étudiant allemand qui est ici pour l'année, Andreas, son prénom. Puis il est venu à une conférence que j'ai donnée dans le cadre du Centre d'Afrophonie des Amériques avec Monique Giroux puis un autre monsieur du Brésil. C'est plus sur qui sont les francophones, c'était pas aussi. C'était surtout vulgarisé, là. C'était vraiment pas ça ce que j'ai fait ici. Puis après ça, il m'a écrit, il dit: j'ai suivi votre cours en genre littéraire, j'avais lu quelques auteurs québécois, puis je suis content parce qu'en Allemagne, on fait juste la littérature française comme littérature francophone. Puis là, j'ai fait un peu de québécois ici, dans vos cours, puis dans d'autres cours. Mais là, pouvez-vous me donner, mettons, juste 10 œuvres, là, en roman, puis en théâtre, que je pourrais lire, les 10 œuvres les plus importantes selon moi en francophonie canadienne, puis je vais les lire parce que je veux voir c'est quoi, je vais m'ouvrir à ça. Mais c'est toujours bien un Allemand qui va retourner dans son pays, qui va l'avoir connu, puis qui sait si un jour il sera pas prof, puis il va dire: ah oui, je me rappelle, je pourrais mettre ça pour montrer d'autres choses. Fait que, tu sais, je sais pas, mais il y a une ouverture, mais c'est une ouverture qui se fait, c'est un à un. C'est, tu sais, Joséphine Bacon parle de bâton message dans son récit. Ben, on est comme des pèlerins, si on veut, qui, comme les comme la littérature québécoise des années 50, moi, je ne l'ai pas vécu, puis toi, je sais que tu as fait des études des années... Non, mais tu as fait des années 80. Non, mais même les années 80, il devait y avoir des profs encore qui étaient... Non, mais quand tu as fait des études au bac, André, il y avait peut-être encore des profs qui dédaignaient la littérature québécoise, où c'était peut-être moins pire, mais tu sais, c'était pas aussi... C'est ça. Puis d'ailleurs, si tu regardes les chiffres, j'ai vu les chiffres, parce que j'ai vu le programme présentement, le vieux rapport... Il y avait un bac en littérature française puis en littérature québécoise. Les chiffres en littérature québécoise étaient minimes. Il y avait peut-être 25 personnes pour 125 en littérature française. Et si on regardait aujourd'hui, peut-être pas au bac parce que c'est moins important d'aller voir comme ça, mais si on regardait le nombre de maîtrises dirigées par mes collègues, si on prend juste littérature française et québécoise, on se rend compte que les chiffres, en tout cas, se sont déplacés, c'est certain. Donc, en ce sens-là, tu sais, il y a... on fera pas ça avec la littérature acadienne, c'est pas ça l'objectif. Mais pareil, c'est quelque chose... juste être sensibilisé, je pense que ça peut être intéressant.
Non, c'est parce que je vous disais peut-être que c'est frustrant justement pour les littératures canadiennes françaises de voir qu'on est prêt à s'ouvrir d'abord ailleurs plutôt qu'à côté.
En partie, mais ça c'est comme n'importe quoi. Moi je dis tout le temps, on a le profil international puis on envoie tout le monde en France, tout le monde va aller en France. Mais j'aimerais mieux qu'il aille aux Pays-Bas ou en Italie ou même qu'il aille à Moncton ou qu'il aille à Lafayette. Faire une session à Lafayette, ça serait vraiment intéressant. Ou même en Amérique du Sud. Ouvrir l'Amérique du Sud, va faire ta session en français au Brésil ou à l'Université autonome du Mexique. Puis tu vas voir autre chose que juste retourner en France. Mais ça, c'est le vieux complexe. Tous les profs de la génération dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en avait tout le temps un qui allait faire, il allait tout le temps faire soit la maîtrise ou leur doctorat en France. C'était comme un passage obligé. Il fallait faire, dans les années 50-60, un des deux diplômes absolument en France. Sinon, c'était moins considéré. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, ça ne tenue pas nécessairement, mais c'est pas aussi valable qu'avant. Donc,
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir?
J'ai une petite question pour revenir à l'institution, justement, parce que j'ai fait quelques lectures là-dessus. Puis j'ai aussi eu une conversation avec Robert Laliberté de l'Association internationale des études québécoises qui constate depuis quelques années que les centres d'études québécoises ou les centres d'études canadiennes sont en train de disparaître parce que c'était une personne... dans le meilleur des cas, deux professeurs qui représentaient le centre à eux tout seuls, et puis qu'avec des retraites, on ne remplace pas. Alors, c'est pour ça que des fois, je me dis, on dirait qu'on a quelque chose... j'arrive pas à... Très sincèrement, je suis en réflexion. J'arrive pas à identifier ce qui se passe et à l'interpréter correctement. Je veux pas tomber dans l'attitude, tu parlais de l'angoisse de François Paris, qui est partagée par François Ricard, qui parlait de la mort de littérature québécoise. Hein, de toute façon, on pourrait aller à l'Institution littéraire québécoise en disant, bon, on se fait des hôtels parce qu'on a des maisons d'édition, des prix, tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a tant que ça, là, est-ce que c'est un si bon signe? On a toujours été plutôt pessimiste, mais malgré tout, Robert Laliberté constate donc qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des centres qui disparaissent. Et je pense qu'effectivement, ça change. Donc, la québécitude, notamment la québécité, là, on dirait qu'elle est en train aussi là, de se transformer. La littérature contemporaine insiste moins sur l'identité nationale. Mmh. Alors, quand tu parles de littérature de la contiguïté, comment tu vois, toi, comment tu vois ces changements-là, qui sont peut-être différents, bien sûr, là, dans les autres, dans les littératures franco-canadiennes, là, où on voit peut-être une institution qui essaie de se développer. Mmh. On dirait que ça... que les quatre sont en train de bouger, puis le statut du Québec me paraît assez différent.
Bien, c'est sûr que dans le monde, tu as raison, c'est souvent, moi, je connais aussi un peu ce milieu-là, Peter Klaus, qui est parti en Allemagne, qui a pris sa retraite, donc Jaap Lindfeldt, c'est Jeannette qui l'a remplacé, les études, sans études canadiennes, au moins il y avait quelqu'un là, mais tu as raison qu'il y a beaucoup de centres qui ferment, tout ça, donc... Tu sais, pareil, dans la littérature exécutée, de l'éternel recommencement. T'sais, tu pars d'une maison d'édition, une revue littéraire, ça dure 2 mois. T'sais, les revues étudiantes, souvent, c'est comme ça aussi. Ça dure pendant 2-3 ans. Après ça, ça ferme. 5 ans plus tard, quelqu'un décide, on devrait partir d'une revue littéraire, etc. Je pense que les modalités sont en train de changer sur la façon de faire les choses, peut-être. Ce qui est certain, c'est que même au Canada, moi, avant d'arriver à Laval, j'avais appliqué sur 2-3 postes qui étaient tous en Acadie, mais pas en Acadie, dans les Maritimes, à Dalhousie pour remplacer Anne Srounté, qui était faite de littérature acadienne, à Sainte-Marie. Finalement, on décide jamais, ils n'ont pas eu de budget, on décide jamais remplacer. C'est pas que j'ai pas eu de poste, c'est qu'il n'y avait pas eu de poste pour personne. Donc, et Raoul Boudreau qui prend sa retraite, là, James a fini après sa retraite à Moncton, ben les deux n'ont pas été remplacés sauf par un linguiste parce qu'il manquait vraiment de linguistes dans le domaine de littérature et linguistique là-bas. Donc, je disais en blague, j'ai dit, je suis content parce que ça veut dire que les Acadiens, ceux qui vont, les quelques-uns qui vont vouloir faire une maîtrise ou un doctorat, ils vont venir me voir moi à Laval parce qu'il n'y aura plus personne pour les diriger. C'est pas avec deux autres profs que je n'aimerais pas que ça va être très fort là-bas là, présentement. Mais oui, il y a certainement un changement, mais... Je sais pas. En même temps, il faut créer des liens différents. Il faut voir. Tu sais, je sais que le colloque que j'organise en octobre sur les éditions littéraires, le prochain colloque va être à Poitiers, justement, avec André Magard, qui est comme un grand défendeur. Mais comme tu dis, quand lui va prendre sa retraite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer? Tu sais, c'est. Souvent, il y a des créneaux comme ça qui se ferment si la personne prend sa retraite, surtout dans une situation de décroissance. Mais je sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est des œuvres québécoise ou franco-américaine, comme celle de Béchard, Vandal Love, ou celle de notre ami Dick Nair avec Nikolski, tout ça. Ça te montre justement, là, au plan littéraire, la contiguïté des personnes qui se rencontrent, finalement, se rendent compte qu'ils ont des liens, puis qu'ils sont acadiens ou qui viennent de l'Ouest, etc. Ça, je trouve ça assez fascinant. Puis on en trouve de temps en temps comme ça. Le Vandal Love, c'est intéressant au bout. Je sais pas si tu l'as lu, là, éventuellement. Là, c'est vraiment fascinant. C'est publié chez Québec-Amérique en français. Ouais, donc, mais je sais pas, moi aussi j'ai réfléchi à ça, puis même l'idée de contiguïté, ça reste une hypothèse, une façon de voir les choses, surtout pour essayer de se sortir de l'idée de pessimisme, d'exiguïté, tu sais. Donc c'est une façon de s'en sortir, je pense, en tout cas, surtout au plan institutionnel.
Je sais pas si c'est...
D'autres interventions?
J'avais senti bouger.
Le courant d'air.
C'est encore de René, en fait, donc je me permets une troisième question. Ça, on pourra dire. On t'a parlé de déficit romanesque en milieu minoritaire. Je te demandais, est-ce que ça pourrait être un des facteurs, une des raisons de l'intérêt relativement faible du Québec pour le Canada francophone, étant donné que nous, c'est le contraire. Si l'âge d'or de la poésie est un peu derrière, c'est un boom romanesque. Donc, je me demandais ce qu'on peut...
C'est sûr, parce que si tu penses aux auteurs les plus importants, qui sont les plus lus, ça reste, comme je te dis, selon moi, en roman, Daniel Poliquin puis Franz Daigle. Mais c'est deux des grands romanciers, puis qui publient chez Boréal maintenant, Poliquin depuis plus longtemps, puis Daigle aussi. C'est certain que la poésie, ça se vend pas. Puis, tu sais, c'est assez fascinant que... Je vais donner un exemple, là. C'était une tragédie. Là, je parle comme Paris, mais j'ai raison. Les éditions d'Acadie ont fermé, ont fait faillite en 2000. Qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs auteurs se sont logés ailleurs, c'est certain. La plupart en Ontario. Les vraiment meilleurs, dans ce cas-là, je dirais juste une, mais Franz Daigle chez Boréal. Mais les autres ont tout rendu chez Prise de Parole, les éditions David. Il y a une mutation dans l'édition. En fait, à part si tu publies de la poésie, tu vas publier chez Personnage. Mais Personnage, dans le fond, qui est une maison hyper spécialisée de littérature, c'est paradoxal, c'est la seule vraiment maison d'édition littéraire en Acadie, mais elle se concentre sur le genre le moins lu, qui est la poésie. OK? Bon, évidemment, il y a Bouton d'or Acadie, mais ça fait dans jeunesse, c'est correct. Puis il y a des maisons d'édition. En Acadie, là, présentement, le gros phénomène, là, c'est le phénomène de littérature populaire. Des curés qui publient leurs mémoires aux éditions de la Francophonie qui sont à Lévis ou aux éditions de la Grande Marée, c'est incroyable le nombre de gens qui ne sont pas du tout littéraires. Puis en fait, c'est beaucoup moins lié à la littérature qu'à la rumeur. Puis, ne veut pas de voir le curé qui était là pendant 40 ans publier ses mémoires. On va tout au sol d'église pour acheter 2000 copies de son livre qu'il a financé lui-même en payant à moitié avec la maison d'édition. Bien, c'est un autre aspect. C'est très intéressant à mentionner. Je ne veux pas dénigrer. C'est une autre façon de voir la littérature. Puis, lui, M. Saunier, que j'aime bien, il est rendu assez vieux, mais qui est à Lévis. Lui, ce qui est important, c'est de publier 80 livres par année. S'il peut publier 80 livres par année, il est content. Puis l'année prochaine, 85, c'est pas la qualité littéraire, Mais c'est ça, c'est certain que des déficits hormonaux, ça fait une différence, tout à fait. Mais même là, m'a donné un exemple intéressant. Je vais pas me tromper de prix, là. Le prix des libraires. Hein, le prix des libraires, c'est un prix qui a un prix des libraires pour le Québec, puis un prix littéraire hors Québec, étranger. Mais qu'est-ce que ça donne aux Québécois, aux libraires, de donner un prix à Philippe Roth pour La Tâche ou pour Jonathan Littell pour Les Bienveillantes? Ça ne leur donne seulement rien aux ces œuvres-là. J'ai fait la liste, là, des listes courtes. J'avais même écrit à Chantal Guy de La Presse pour lui demander. Y a-t-il déjà une fois même qu'il y a été une œuvre franco-canadienne qui a été nominée? Même Nancy Houston ou quoi que ce soit. Mais non, c'est le temps des nominations typiques, là, faciles. Là. Tu sais, des auteurs les plus intéressants. Alors qu'au Québec, on ne prendra pas les auteurs qui vendent le plus, on prend les auteurs les plus intéressants au plan esthétique dans les 5 choix. Mais il me semble que ça serait bien plus fascinant. Tu sais, comme il y a un prix à Star depuis 4-5 ans, qui est le prix des lecteurs Radio-Canada. Okay? C'est des gens comme vous autres. D'ailleurs, vous pourriez appliquer les étudiants, appliquer pour ça, parce qu'ils vous payent le voyage à Ottawa, vous avez des œuvres gratuites et même un petit cachet. Puis tu lis 8 œuvres franco-canadiennes, puis tu en gardes 5, puis il y en a une qui gagne à la fin, puis c'est les gens du public qui gagnent. Puis une étudiante qui l'a faite, qui était à Moncton dans le temps. Bien, la première année, c'était plus ou moins un scandale quand c'est devenu le prix national, parce qu'avant, c'était un prix qui était juste en Ontario. Qui a gagné? Ex-aequo sur 5 personnes. T'es déjà là, tu fais gagner 2 personnes sur 5. Nancy Houston avec Ligne de Faille, puis Daniel Poliquin avec La Kermesse. C'est des œuvres majeures, bien, surtout Ligne de Faille, mais c'est sûr que si tu gagnes les Médicis, c'est un petit peu normal, tu gagnes le prix des lecteurs Radio-Canada après, puis ça n'apporte absolument rien à la connaissance de ces littératures-là, parce que Nancy Houston, on va être d'accord, oui, elle vient d'Alberta, mais c'est de la plus franco-française, des écrivaines de la francophonie minoritaire. Je pense pas qu'elle se sente comme super franco-albertaine, même si elle écrit La Cantique des Plaines, c'est super bon, tout ça. Donc, et là, le prix, c'est un prix qui est intéressant, mais en faire pour le prix Champlain, il y a un prix Champlain autant pour les essais que pour la fiction, qui est donné maintenant au Salon du Livre de Québec, ces œuvres-là sont intéressantes, mais sont pas lues. Il y a un prix que vous connaissez peut-être pas, qui est le prix Émile Olivier, qui est donné par le gouvernement du Québec. Mais c'est un prix pour justement la francophonie hors Québec. Mais personne ne sait que ce prix-là est donné, contrairement, mettons, au prix Athanase David, évidemment, qui est plus important, ou Gilles Corbeil, ou même les gouverneurs généraux, ou le prix Émile Ligand, etc., ou le Grand Prix de la Ville de Montréal, par exemple. Fait qu'en ce sens-là, c'est des changements qui pourraient être faits, là. Tu sais, prix des libraires hors Québec, mais tu donnes ça tout le temps des œuvres consensuelles que, bon, tiens, La Tâche de Roth a gagné tout son passage aux États-Unis. Fait que c'est sûr qu'en traduction, ça va gagner parce que tout le monde en parle, tout ça, tu sais. Donc, c'est sûr que si tu essaies de mettre un auteur plus ou moins connu contre ça, bien, c'est sûr que ça va tout le temps être l'auteur majeur qui va gagner parce qu'il est déjà majeur dans sa propre littérature. Fait que c'est facile d'y aller de façon-là. Mais je suis d'accord avec toi. S'il y avait plus de romans, mais en même temps, tu vois, un auteur qui me fascine parce que son œuvre est tellement mauvaise, mais il réussit à publier continuellement chez XYZ, c'est Claude Leboutillier. C'est des œuvres tellement pas bonnes, mais il continue, puis il est encore publié chez XYZ. Il a réussi à se trouver une niche, mais c'est mauvais. Écoute, il y a un livre qui s'appelle Complice du silence. Sur la couverture, il est écrit, c'est récent, de 2004. Premier roman de l'Acadie moderne. C'est comme si France Degg n'avait pas existé avant, puis tout ça, c'est écrit ça. Puis dans le roman, tu as le prince William, à la fin, qui décide de faire un voyage en Acadie, puis tiens, qui tombe en amour avec une Acadienne, qui serait supposément une descendante d'Évangeline, il se marie, puis finalement, l'Acadie, on s'excuse de des torts causés à l'Acadie. C'est n'importe quoi. écoute, les titres de ses romans, Karma et coup de foudre, Eros et Thanatos, c'est mauvais. Il a fait quelques œuvres intéressantes, mais il continue à publier chez XYZ, doit avoir une bonne amitié avec André Vanasse, ou je sais pas qui est rendu là présentement, mais c'est pourri, pourri, pourri. Mais il continue à publier au Québec. C'est un des rares qui ouais, ça tu le couperas. Mais quoi que j'ai pas honte, j'ai déjà dit dans un texte que c'était. Ben, j'ai pas dit de même, mais que c'était presque. Non, j'ai dit que c'était pas très littéraire, mais en tout cas, voilà. Oh, non, là, c'est vrai que c'est pas très bon, je te le dis, Claude Leboutillier, c'est.
Vous avez évoqué brièvement au tout début là, le rapport à l'oralité de ces littératures-là. J'aimerais ça t'entendre. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'auteurs qui travaillent justement à retranscrire l'oral, le vernaculaire dans leur pratique et tout ça? Parce que depuis peu de temps, je m'intéresse à ça. J'essaie d'en trouver en littérature québécoise. Puis souvent, je lis des auteurs et je suis un peu déçu, surtout quand on passe au dialogue. Pour la narration, ça va, mais lorsqu'il y a des retranscriptions, je trouve que ça sonne un peu franchouillard.
Okay.
C'est un français, en tout cas très normatif. Mm. Puis je me pose la question, pourquoi il n'y a pas plus d'auteurs qui écrivent des dialogues en québécois? Mm. Je me demandais comment ça se passe ailleurs au Canada.
Oui. Ben écoute, c'est sûr que la réalité. En Ontario, par exemple, la littérature arrive par l'oralité. La cuisine, la poésie, les pièces de théâtre, etc. C'est l'oralité d'abord et avant tout, c'est certain. Mais j'en ai des exemples récents. Je parlais tout à l'heure de France Degg. France Daigle a eu de la difficulté, en fait, dans tous ses premiers romans. Il n'y avait pas de dialogue dans ses romans. Il n'y a personne qui parlait. En fait, il n'y avait pas de personnage. C'est vraiment éclaté. Là. C'est vraiment pas évident. Mais pourquoi il n'y avait pas de dialogue? C'est parce qu'elle ne savait pas comment. Elle voulait pas écrire en chiac, mais elle voulait pas écrire dans un français standard parce que ça n'a pas de bon sens. Je suis pas capable de faire ça. Il a fallu qu'elle arrive par le théâtre avec des pièces expérimentales avec le collectif Moncton Sable pour se décider dans 1953, surtout dans Pas pire, puis de plus en plus, en fait, dans son dernier roman, c'est encore plus. Puis il y a même une réflexion, méta-réflexion sur le langage, parce que les personnages, elles demandent, à un moment donné, Thierry et Carmen, ils attendent leur premier enfant. Puis là, ils se disent, coudonc, le chiac, ça devrait-tu être comme la bouse, comme la boisson? On devrait-tu l'interdire au moins 18 ans? Tu sais, parce que c'est pas beau quand ils sont jeunes, après ça, ils feront leur choix, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils reçoivent un cadeau au dictionnaire visuel, puis ils disent, ah, c'est ça que c'est le même qu'on dit ça en français, de l'affaire. Ils savent c'est quoi un steering wheel, mais un volant. Bon, ça, c'était facile, mais il y en avait plein d'autres qui ne savaient pas nécessairement. Donc, Franzdeg est un bon exemple qu'elle est passée d'un français normatif. En fait, si tu enlèves le nom Franzdeg, tu penses que c'est peut-être un romancier français. Ça ressemble à du Robillier ou du Butor, peut-être un peu moins bon, mais je veux dire, ça reste dans la même optique si on veut. En fait, l'Acadie est complètement évacuée, alors que présentement, elle va dans l'oralité beaucoup plus, dans les dialogues, c'est certain. Mais l'exemple le plus intéressant, on va donner les deux exemples. J'ai parlé tout à l'heure de Georgette Leblanc. En Acadie, dans les 10 dernières années, selon moi, il y a deux œuvres importantes dans les 10 dernières années majeures. C'est deux jeunes de 30 ans qui les ont écrits. C'est Emma Haché avec l'intimité, qui a gagné le prix du gouverneur général. C'est une pièce jouée ici au Québec par Marc Bellin puis des auteurs et des acteurs québécois. L'intimité, c'est une pièce qui parle d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, canadien-français, qui rencontre une Allemande là-bas, puis tout ça, puis ils reviennent au Canada, puis c'est comme un mariage plus ou moins arrangé, forcé, pour l'aider à s'en sortir, puis tout ça. Évidemment, ils ne sont jamais vraiment aimés, puis tout ça. Mais c'est une pièce qui n'a rien à voir avec l'Acadie, qui n'a rien à voir avec la réalité non plus. On est dans une pièce vraiment là, avec des grandes envolées, puis tout ça, puis très poétique, etc., mais métaphorique, et rien de la réalité. Rien, je te dis. Puis c'est excellent. Je l'ai fait lire dans un cours, puis les étudiants, il y a un gars qui s'en allait enseigner au secondaire, il disait, je montrais ça avec mes étudiants au secondaire, c'est vraiment une bonne pièce, puis c'est pas long, c'est 45 pages. Je vous dis, allez lire l'intimité, ça vaut vraiment la peine, c'est particulier. Surtout que chaque scène ou chaque scène tableau a un titre comme tel, qu'on voit pas évidemment, donc il y a quelque chose de plus intéressant dans la pièce écrite que la pièce jouée. Puis à l'opposé, sa compatriote, si on veut, Georgette Leblanc, qui vient de la Nouvelle-Écosse, elle décide d'écrire Alma, Alma, c'est fascinant parce que c'est de la poésie. Mais tous les poèmes, c'est une histoire vraiment. C'est une histoire, dans le fond, d'une femme qui est née au début de. Juste avant le. Mettons, 15 ans avant le crash boursier, puis tout ça, avant les difficultés financières en Acadie. En fait, elle est née en Nouvelle-Écosse. Puis toute sa vie, elle est née le même jour que son futur amoureux, puis ils vont se marier, puis tout ça. Mais c'est du féminisme avant la lettre. Tout ça, c'était publié en 2006. Elle finit par le laisser là, puis tout ça. Mais elle réussit, premièrement, elle n'a pas de lexique à la fin, comme d'autres auteurs qui écriraient avec la réalité. Il n'y a pas de lexique, il faut braquer, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire commencer. Puis il y a plein d'autres mots de même, il y en a qui sont faciles, mais d'autres que tu faut. Même que le contexte n'est pas certain, mais tu comprends quand même le sens. Puis elle a écrit dans la langue, non pas de chiac de Moncton, elle a écrit dans l'acadien, qui est la langue de la Nouvelle-Écosse. OK? Puis elle fait le pari que, même si on n'a pas de lexique, on est capable de comprendre ce qui est écrit là-dedans. C'est d'une beauté, là, c'est incroyable, c'est. J'étais dans le cours de Justin là, pour en parler aux étudiants, je l'avais fait lire, puis eux autres aussi trouvaient ça intéressant, parce que contrairement à un recueil de poésie où tu te dis, bon, mais il n'y a pas de nécessairement de lien facile, là, il y a un lien, parce que c'est une narration quand même, puis à la fin, finalement, son mari, elle laisse, puis elle commence à vaquer à ses autres occupations, tout ça, puis c'est super beau, puis là, elle a fait le pari, justement, elle, on a l'exemple à l'opposé, assimilation complète avec Emma Haché, qui est une Acadienne qui écrit comme si c'était une dramaturge française ou québécoise. Puis, Georgette Leblanc, elle, qui va dans la différenciation la plus probante en écrivant en réalité. Mais il y en a encore, il y en a peut-être moins, mais tu pourrais trouver Jean Babineau aussi. Jean Babineau en roman, ça, c'est hyper difficile à lire, là. Plus il écrit, moins que c'est bon, mais son premier est excellent, Bloop. Si tu lis le roman Bloop, là, tu vas voir un mélange de français, d'anglais, de toutes sortes de choses, de jeux de mots, c'est assez intéressant. Puis, dans l'Ouest canadien, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Chicoine qui a écrit La forêt du langage, son deuxième roman que je n'ai pas encore lu. Son premier, c'était correct, là, c'était pas incroyable, mais il joue beaucoup avec la réalité aussi. Ça s'appelait L'univers, voyons, c'est quoi donc? Nos galaxies, les étoiles, nos galaxies, je ne sais pas trop quoi. Les galaxies, nos étoiles, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, Jean Chicoine, c'est un Québécois exilé depuis 50 ans là-bas, mais il a écrit un livre qui a beaucoup de réalité dedans, puis il y en a d'autres aussi, évidemment, mais évidemment, des biens, la réalité, la poésie, tout ça, il y en a énormément. Mais je parle des récents, là, dans les années 2000, là, ben, ce sera ces auteurs-là qui pourraient être intéressants. Mais tu vois qu'on décide soit de s'assimiler ou pas, ou de trouver la bonne distance. Parce que Jean Babineau, il y a une fille à la maîtrise qui est à notre bac avec nous autres avant, qui est avec Lucie Robert, qui travaille sur Jean Babineau. Puis elle, j'ai jamais eu comme étudiante, là. Fait que j'ai dit, comment t'as fait de découvrir Jean Babineau? Puis, en tout cas, j'ai pas trop aussi par la bande avec Catherine Leclerc puis d'autres, mais elle travaille sur Jean Babineau, justement, à l'UQAM avec Lucie Robert. Puis là, j'essaie de la convaincre de revenir à Laval, ça va faire un doctorat, puis tout ça, on verra. Mais ça reste que Jean Babineau, je suis surpris qu'il y ait quelqu'un d'étudier au Québec parce que c'est vraiment difficile, c'est pas accessible vraiment comme type d'écriture.